Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir, c'est une spéciale émission autour du ballon d'or. Jason avec nous, comment ça va Jason?
Ça va et toi Eladj?
Ça va super, t'as passé de bonnes vacances Jason?
Ça a été nickel.
Ça va, ton pronostic pour le ballon d'or?
Je dirais Ousmane.
Ousmane, merci Jason. Comment ça va Lucas?
Ça va très bien et toi?
On est en même temps en direct avec l'OM PSG. Hein.
C'est ça, c'est ça.
Marseille qui mène 1-0.
Exactement.
Lucas un peu déçu, je suppose.
c'est pas fini, ça va aller.
Comment ça va? Et toi, comment tu sens tout simplement le vainqueur de ce soir Ballon d'Or?
Pour moi, ça ne peut être qu'Ousmane Dembélé Ballon d'Or ce soir.
Merci Lucas. Bambori, comment ça va?
Ça va et toi?
T'es sûr que ça va? On a pu voir. Lewandowski qui a été 14e au Ballon d'Or.
Je suis habitué maintenant.
Michael Olise 30e. On a pu voir Vinicius devant.
Ah, moi, je suis pas très d'accord avec le classement, mais bon, je suis un peu habitué maintenant avec le Ballon d'Or.
Donc ce soir, qu'est-ce que tu t'attends du Ballon d'Or?
Ousmane Dembélé, s'il lui donne pas, c'est un vol.
Merci Bambori. Il y a Abou qui va venir nous rejoindre quelques minutes après. Il est en train de tout simplement regarder OM PSG, mais il va venir nous rejoindre dans les locaux. Hein. Abou qui est déjà très content, hein, je vous le dis, il va très bien. Il est très content de ce 1-0. On rappelle que ça fait 14 ans que Marseille n'ont pas réussi à battre le Paris Saint-Germain.
En championnat.
En championnat, oui, en championnat, parce qu'en Coupe de France, il y avait eu...
C'est ça, sous Igor Tudor, ils avaient gagné 2-1, ouais.
C'est ça. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, du classement pour l'instant, du top 30e, Michael Olise? On a pu voir aussi Lewandowski, qui n'est pas dans le top 10. Pour vous, c'est un...
En fait, pour moi, ça pourrait être un scandale si... comment il s'appelle? Si Pedri y était, ou Gvara. Mais quand on voit que Cole Palmer est top 10, moi, c'est ça le... Lewandowski peut y être ou pas, mais pour moi c'est surtout la présence de Cole Palmer à si haut dans le classement qui est inexplicable, et que Pedri hors du top 10, je trouve que c'est assez incompréhensible aussi.
Pedri hors du top 10, Virgil van Dijk 28e, Wirtz 29e, Michael Olise qui ferme la marche, hein, tout simplement 30e, est-ce que pour vous c'était la place attribuée?
Après, Michael Olise, l'année dernière, c'était un peu la découverte de ce joueur. Donc déjà, qui participe à la liste, c'est déjà une bonne avancée pour lui. Et je pense que la saison prochaine pour le Ballon d'Or, cette saison actuelle pour le Ballon d'Or prochain, là, on le verra un peu plus haut. Mais 30e, pour moi, ce n'est pas non plus infligeant pour Michael Olise.
Ok, merci Jason. Abou, comment ça va?
Ça va, t'es Lodge?
Ça va, comme je disais que t'allais très bien avec Marseille qui était en train de gagner face au Paris Saint-Germain.
En match de foot, c'est 90 minutes, on en a vu d'autres avec l'Olympique de Marseille, on va attendre la fin.
C'est sûr qu'il ne faut pas mettre les charrues avant la 2, comme dirait Cheikh Kenza. D'ailleurs, à qui on passe le bonjour. Vinicius, 16e, ça te surprend, toi?
Non, pas plus que ça. C'est logique, quoi. Il fait une moins bonne saison. Je trouve même que 16e, c'est assez haut en vrai. Il fait une moins bonne saison que celle d'avant. Je pense que le non-ballon d'or de la saison d'avant, lui aussi, ça lui a mis un coup sur la tête. Là, on voit déjà sur ce début de saison, il est bien mieux que sur la saison dernière. Donc non, ce 16e, c'est un classement à pas débattre. Après, moi, je pars du principe en fait que hors du top 10, c'est même pas des gens dont on doit parler. Ok, ils sont là, tant mieux. Mais vraiment, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est limite le top 10, voire le top 3. Et c'est là où on attend de voir ce qui se passe.
Merci Abou. Bambori, Erling Haaland à la 26e place.
La saison dernière, il a eu de bonnes stats, mais il a été blessé.
Et collectivement, ça a été compliqué.
Ça a été compliqué pour City, qui ont fait l'une de leurs pires saisons sous Guardiola, si ce n'est la pire. Donc c'est un peu compréhensible aussi sa 26e position au classement.
Pour l'instant, toi, qu'est-ce qui te semble injuste, plus ou moins, là, dans ce classement que tu as pu voir juste avant?
Tout d'abord, Palmer, il est très haut quand même. Dixième quand même, c'est très très bien pour lui.
Pour aucun trophée gagné à part la Coupe du Monde des clubs. Donc la Coupe du Monde des clubs contre
la Conférence League.
Oui, mais après une Conférence League où il a joué qu'une partie des phases finales.
Exactement.
Pas beaucoup.
Il a pas fait les matchs de poule.
Ça a été beaucoup tourné. Ils ont beaucoup tourné du coup.
Et de janvier jusqu'à la fin de saison, il est pas décisif si je me trompe pas.
Mais surtout qu'en première ligue, il avait beaucoup de mal.
Il a eu un très très gros trou.
Bah après, je pense qu'ils sont restés plus sur la finale de la Coupe du Monde des clubs, là où il a mis un bon poster sur Chelsea en Europe. C'est que tout le monde s'est dit personne bat le PSG et lui, il est arrivé, il a fait son festival. Et je pense que tout le monde a retenu que ça.
Donc la Coupe du Monde des clubs, maintenant, c'est une compétition à prendre au sérieux qui peut compter pour le Ballon d'Or. Parce qu'il y en a beaucoup de journalistes disaient que ça n'allait pas beaucoup compter, etc. Malgré la défaite du Paris Saint-Germain en finale, avec une superbe campagne, bien sûr, d'Ousmane Dembélé, est-ce que du coup ça peut lui porter crédit pour ce Ballon d'Or, tout simplement, Jason?
Par rapport à Ousmane, après on verra par rapport à là où il sera positionné, mais en principe... Les matchs qu'il a joués, il a été bon. On va dire la finale, après tout le monde était un peu en dedans. Mais sinon, les tours d'avant, il a été présent. Et si on accumule ça au dernier match de Ligue des Champions qu'il a pu effectuer, en principe, il devrait l'avoir, il n'y a pas photo. Mais bon, on peut toujours être surpris, comme l'année dernière, on l'a bien vu avec Vinicius.
Top 10, bon, Kylian Mbappé, ça n'est pas une surprise ?
Dans le top 10, non, c'est pas une surprise. Bah, on en parlait même pour être l'un des favoris avant la fin en autre boudin du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais non, ce n'est pas une surprise. À titre personnel, il fait quand même de très très bonnes stats. Et il a bien staté. Après, il n'y a pas de trophée majeur collectif pour le Real Madrid. C'est important de le rappeler. Parce que je me rappelle d'une conférence de presse d'Mbappé en équipe de France qui t'explique qu'il a remporté d'autres trophées. Ce n'est pas des trophées majeurs. Mais donc, ouais, il n'y a pas de trophée majeur collectif pour le Real. Donc, non, dans le top 10, pour moi, c'est assez logique. Ça ne me choquerait même pas qu'il soit dans le top 6-7.
Ça commence à faire haut top 6-7 quand même. Pour moi, il est en fin de top 10.
Et moi, ça me choquerait
le Mbappé
pas
de l'an dernier, parce qu'on parle toujours de stats. Quand on voit le contenu des matchs, on a souligné son très bon début de saison où il semble enfin connecté à ses partenaires, où il arrive vraiment à collectivement faire la différence et pas qu'en forçant individuellement. Je pense que l'an dernier, il a quand même pas trop montré ça. Donc pour moi, si même quand il fait une moins bonne saison, il est dans le top 5, en fait, autant lui donner son ballon d'or déjà et qu'on arrête.
Ça finira comme ça.
Je pense que tout le monde attend que ça, donc ouais, autant lui donner.
Parce que là, on met le nom, en fait. On ne met même pas la saison du joueur, on met directement le nom. Parce que la première partie de saison a été très compliquée pour lui. Certes, en deuxième partie de saison, il s'est un peu lâché. Mais si on commence à partir dans ce rythme-là, les prochains ballons d'or, qu'est-ce que ça va donner ?
Guirassy, top 21. Guirassy, lui, qui n'était pas tout simplement dans la liste des nominés l'année dernière, là, qui termine meilleur buteur de la Ligue des Champions. 21, c'est une place, comment vous la trouvez, Abou ?
C'est pareil que pour... c'est qui le 17e ? On parlait de... C'était qui le 17e ?
Lewandowski.
C'est Lewandowski le 17e ? Ouais, c'est pareil, c'est dans la même trempe. Il fait une bonne saison, mais Dortmund fait pas non plus la saison du siècle. Il stade, c'est une année sans Coupe d'Afrique pour lui, donc c'est un classement assez logique. Je pense que Guirassy sera beaucoup mieux classé la saison là, pour l'année prochaine. Je pense qu'avec la Coupe d'Afrique et le début de saison qu'il réalise, s'il reste sur les mêmes standards, il sera beaucoup mieux classé que cette saison-là.
On espère en tout cas pour lui. McAllister, 22e, Bellingham, 23e, Fabian Ruiz, 24e. Qu'est-ce que vous en pensez ? Premier joueur du Paris Saint-Germain à être nominé.
C'est chaud quand Bellingham devant Fabian Ruiz. Pour moi, en tout cas, ça me surprend.
Encore une fois, c'est, je pense, plus le nom que les performances sur le terrain qui ont joué. Et là, c'est là aussi on peut voir l'éparpillement des votes sur le PSG. Il y avait tellement de joueurs du PSG nominés dans les 30, il fallait bien y en a un qui est le moins. Je pense que Fabian Ruiz, il a commencé à vraiment très, très bien performer à partir de janvier. Mais lui aussi, il a eu une période délicate en début de saison dernière. Donc, ce n'est pas étonnant de le voir bas. Mais Fabian Ruiz aussi, c'est un joueur qui a tellement progressé, qui a pris une telle importance au PSG. On peut imaginer que s'il a le même niveau et que Paris gagne des titres, il puisse lui aussi être encore plus haut les années à venir.
Merci, Lucas. Du coup, je pense que pour le top 30, à peu près, on a fait le tour. On avait aussi... Lautaro Martinez qui conclut le top 20, Scott McTominay qui a fait une très bonne saison, deuxième joueur du Paris Saint-Germain, João Neves qui a été 19e lui. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jason ?
J'ai pas entendu quel joueur ?
Vinicius 16e, Lewandowski 17e, Scott McTominay 18e, João Neves 19e et Lautaro Martinez 20e.
Après, par exemple, Scott McTominay, moi je l'aurais pas mis devant Guirassy. parce que il fait une très grosse saison. Et si on reprend que championnat, Guirassy aussi l'année dernière, il fait une top saison en Bundesliga.
Mais ils ne sont pas champions. Alors que là,
Naples, ouais, certes, ils sont champions.
Mais McTominay, il n'est pas pourri en plus, hein, franchement.
Guirassy aussi, meilleur buteur de Ligue des Champions, et il marque contre des gros. Et franchement, moi, j'aurais mis Guirassy devant. Certes, la Serie A, ce n'est plus ce que c'est. Mais franchement, la saison quand même de Guirassy qui fait, dans un, n'oubliez pas, dans un Dortmund, mais vraiment amoindri, c'est plus le Dortmund d'avant. Et planter autant de buts et essayer de faire exister son équipe dans les tours les plus hauts possibles, pour moi, c'est quand même une certaine performance, même s'ils n'ont pas de trophée.
Merci, Jason. Abou, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de se dire ?
Non, moi, McTominay, je trouve qu'il fait une très, très grosse saison. Et que, c'est pas choquant de le voir devant Guirassy. Et encore une fois, moi, je pars du principe qu'après la 10e place, le classement du Ballon d'Or, c'est des noms qui sont là pour être là. Tout le monde s'en foutra dans 10, s'en fichera pour être poli. Dans 10, 15 ans, s'en moquera pour être encore plus poli. Dans 10, 15 ans de qui était à la 17e, 18e, 19e. Ça récompense certains joueurs, ça montre leur progression. C'est bien pour eux, c'est bien pour l'ego personnel. Mais est-ce que ça a une vraie valeur ? Est-ce que c'est une réelle valeur ? Est-ce que les joueurs entre eux-mêmes, ils en discutent et ils se disent « Ah, ben, à part Guirassy l'année dernière, qui n'était pas du tout nominé dans les top 30, lui qui... » Enfin, ce qui était choquant de même pas être nominé. Mais est-ce qu'une fois que tu es nominé, que tu sois et que tu sais que tu n'es pas le favori pour le gagner, que tu sois entre la 10e et la 30e place, est-ce que ça compte vraiment ? Je pense que c'est quelque chose
qui passe. Après, pour nous, je pense que ça compte pas. Mais pour les joueurs, ça compte. Parce que même, admettons, quand les joueurs ils sont en fin de carrière, on leur dit « Ah, oh, cette année-là, tu étais dans la liste du Ballon d'Or. »
Mais on leur dit pas que tu sois 14e ou 17e.
Voilà,
tu
vois, y a pas juste grande différence. Dans la liste, c'est au Ballon d'Or.
Le plus important, c'est d'être dans le top 30. Voilà. Enfin, quand tu n'es pas favori, en tout cas.
Oui.
Donc ouais, non, après c'est pour moi, on devrait même faire une compétition que pour les trois premiers. Le reste, pas obligé de les classer.
Après, ça ramènerait moins de vibe et moins de monde autour, je pense, parce que maintenant même les gens, quand ils sont nominés, ils ont cette ferveur de venir avec leur famille et de se présenter à la cérémonie.
Ouais, on pourrait le voir comme ça. Après, est-ce que peut-être ça aurait moins de... Oui, peut-être que ça aurait moins de ferveur pour les joueurs entre eux, mais pour le spectateur, enfin pour le téléspectateur, en tout cas, ça reste la même. Enfin, nous, ce qu'on veut voir là, tout le monde, même là, le début de la compétition, le début de la cérémonie, personne ne le regarde. Ce qui nous importe, c'est à partir de 22h30, quand on va rentrer dans le vif du sujet. Et c'est même triste parce qu'il y a la nomination aussi du Ballon d'Or féminin, mais avant le Ballon d'Or féminin, jusqu'au Ballon d'Or féminin, après le Ballon d'Or féminin, on s'en fiche un peu de ce qui se passe. À part pour les trophées, par contre, individuels, comme le trophée Copa, les 11 joueurs, le 11 de l'année. Etc. Ça, c'est des trophées importants.
Après, je pense aussi que quand ils apparaissent dans la liste du Ballon d'Or, ça les aide pour des futurs transferts.
En fait, c'est la reconnaissance de ton milieu professionnel. Ça veut dire que c'est ce qu'on voit avec le cinéma, Oscar, César, si tu veux. C'est un petit peu une grande messe qui est organisée pour la reconnaissance de tes pairs, en fait. Donc, effectivement, tu vas avec ta famille, tu vas pour te faire voir, etc. Et en soi, comme on dit, à la fin, le plus important, c'est le meilleur acteur, et c'est le Ballon d'Or. C'est la même chose. Au début, c'est les trucs mineurs. On n'est pas forcément. C'est important pour le milieu, c'est pas important pour les spectateurs, et c'est quand on arrive aux choses vraiment importantes que là on se dit, ah ouais, s'il y a une vraie surprise sur l'identité du Ballon d'Or, là il y aura du débat, savoir qui est 14e ou qui est 15e. Effectivement, t'as raison, ça changera pas grand chose, et même pour le public, ça change pas grand chose. Mais Cole Palmer top 10, ça continue de me choquer quand même.
et ça fait débat, et ça, pour moi, par contre, ça fait débat.
Ça va faire débat, hein, parce que Cole Palmer, c'est vraiment... Bon, il y a toujours la petite carotte au Ballon d'Or. Hein. L'année dernière, c'était Vinicius. Aujourd'hui, c'est Cole Palmer qui fait partie.
On n'est pas encore au bout.
C'est peut-être pas Cole Palmer, la carotte. Attends de les voir.
On n'est pas encore. Mais j'ai eu des infos sûres. Je pense que c'est confirmé. J'ai vérifié, c'est confirmé. On pense tous la même chose, je pense, autour de la table. On va poursuivre. Hein. Victor Gyökeres, qui a terminé deuxième sur le podium du Soulier d'Or, et là qui termine 15e au Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Championnat mineur, c'est logique. Bon, pour moi, je pars du... Enfin, on le voit, Gyökeres cette année à Arsenal.
Ça commence mal.
Oui, c'est...
Non, ça commence pas super bien, mais c'est pas mauvais non plus.
Dans le jeu...
Oui, après, Gyökeres dans le jeu, il a jamais été très bon non plus.
Mais en fait, la façon dont joue Arsenal, t'as pas l'impression qu'il va être mis en valeur, en fait. Donc c'est ça qui fait peur aussi. Tu te dis, si Arsenal, il... Après, Arteta, vu ce qu'il a fait ce week-end, en fait, ça va même pas dans le sens de ce que je dis, parce qu'en fait, il a l'air de vouloir juste avoir la meilleure défense d'Europe et derrière, de faire un petit peu du Mourinho. Peut-être que c'est pour ça qu'il a pris Gyökeres, mais dans le jeu qu'il met en place depuis 3 ans, j'ai du mal à le voir performer. Mais là, pour la 15e place, effectivement, il a mis beaucoup de buts. C'est un peu... Ouais. Il a été moins vu que les autres, quand même. Il y a aussi une grosse prestation en Ligue des Champions contre City qui a marqué les esprits. Je trouve ça un peu haut pour lui, mais je suis pas choqué outre mesure.
Oh bah après, franchement, il y avait le débat aussi l'année dernière sur le soulier d'or. Je crois qu'il finit avec le même nombre de points que Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui le remporte.
Parce pour le coefficient
dans,
de.
Ouais, il est dans un meilleur. Enfin, c'est logique, quoi. Il y a un moment donné, sans faire offense à Jokeré, sans faire offense aux défenses portugaises, marquer 40 pions dans le championnat portugais et en marquer 30 dans le championnat anglais ou espagnol, c'est pas la même chose.
Ah bah pour moi, c'est le soulier d'or. Donc en fait, si t'as marqué 40, si tout le monde est à égalité et que tout le monde. Que tout le monde fait de la compétition, c'est celui qui a le plus marqué en fait. Et il y a eu des années avec des joueurs, et en fait c'est toujours ça. En fait, il y a un espèce de truc qu'on va toujours, on parlait de noms, et en fait on veut récompenser les noms maintenant. Et pour moi c'est ça, comme ils ont pas envie qu'il y ait un mec qui ait joué, je sais pas, en Autriche ou autre, et qui fasse une saison à 45 buts, qui prenne le soulier d'or, on a mis en place le truc de coefficient pour favoriser les championnats majeurs. Mais en fait c'est pas forcément juste. En fait les buts faut les mettre, et si un mec fait 45 buts au championnat portugais, moi je veux le, il a le plus marqué que les autres. Donc pourquoi est-ce que, sous prétexte que c'est buts plus faciles, sinon tu comptes les pénaltys aussi, les machins,
il peut y avoir plein de critères. Les adversaires du Sporting par exemple, en dehors du Sporting, Benfica
et Porto.
Et Porto, ah, c'est compliqué. Des Boavista, des trucs comme
ça. Des Rayo de Vallecano, des Getafe. Chaque championnat a ses clubs mineurs.
Mais
en fait.
Ça, j'en suis sûr, c'est des clubs où la moitié des mecs, il y en a, ils travaillent à côté.
Mais non, respectez le championnat portugais. Non. La Super Liga quand même, non, je me l'apporte.
Moi, j'ai pas dit tout ça du championnat portugais.
Non.
Quand tu regardes les matchs, en fait, il n'y a pas match. C'est l'autre équipe, c'est attaque-défense, c'est un entraînement. Donc l'attaquant, il ne peut que marquer. Pavlidis, c'est pareil, il ne peut que marquer dans son championnat. Quand il y avait Mitroglou à Benfica, il a mis des pions aussi.
Mitroglou a mis des pions en Europa League aussi. C'est là où il était le plus fort. Moi, à Benfica, je l'ai trouvé fort, Mitroglou aussi.
Mais moi, pareil. Mais quand il est venu en Europe, il n'était pas très mauvais. Regarde, mais t'as bien vu.
Il a dit qu'il est venu en Europe. Il a enlevé le Portugal de
l'Europe. Quand il est venu à Marseille, on a bien vu que c'était... compliqué. Certes, il a marqué des buts, mais
c'est
dans
pas
la
si
gestuelle.
Que ça, hein.
Non, mais si tu vois ses buts à Porto, ça a une touche.
Ouais, pas.
On te la met, c'était passe-croix, et tu mets dedans. Mais à Marseille, quand on lui demandait un peu plus que juste tirer, tu vois, dans la gestuelle, c'est. Ouais,
pour moi, c'est
compliqué.
Pas le pire neuf que l'OM ait eu ces dernières années. Je trouve qu'on a été beaucoup trop dur avec.
Techniquement, c'est l'un des pires.
Oui, techniquement, mais dans le.
Avec Germain.
Non, Germain, il était bon.
Germain était pas.
Germain,
correct,
était bon. Germain.
C'est un joueur correct.
Germain, il était bon. Après, ne compare pas après Marseille et le Paris Saint-Germain non plus.
Non, du tout.
Mais Germain, il était bon.
Même à Monaco, la saison d'avant, il fait une bonne saison.
Bon.
C'est un joueur correct, Germain. Mais le costume de buteur de Marseille était trop grand pour lui. Et du coup, il ne sera jamais nominé au Ballon d'Or non plus, malheureusement.
Surtout qu'il joue en Australie.
C'est clair.
Compliqué. Du coup, 14e, 3e Parisien à être nominé. Désiré Doué.
Ah, moi, pour le coup, je l'aurais vu beaucoup plus bas. Moi, Désiré Doué, déjà, j'étais.
Beaucoup plus haut, tu veux dire?
Non, beaucoup plus bas. Désiré Doué, pour moi, il est beaucoup trop. C'est,
ah oui, il est pas dans le top 14.
Ah non, il est même pas dans le top 20, il est même pas dans le top 30.
Ah, oui.
Pour moi, c'est un des
meilleurs. Ah, il est pas nominé.
Ah, pour moi, il devrait pas être nominé, Désiré Doué. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs espoirs de la saison. Il fait une finale de Ligue des Champions, donc effectivement, il a toute la lumière sur lui parce qu'il fait une finale extraordinaire. Mais Désiré Doué, il est même pas titulaire avant décembre. Décembre, là, il commence à jouer. Même le match contre où Paris commence à se réveiller contre City, il est pas là. Il a entre le moment où il explose et le moment où il commence à surjouer, déjà à être moins bon, ça va trop vite. Pour moi, Désiré Doué, c'est un des meilleurs espoirs européens, mais pour moi, c'était prématuré de le mettre dans la liste du Ballon d'Or. J'ai plus en tête les, notamment Pacho, pour moi, il doit être devant lui. Mais non, pour moi, du coup,
Pacho
il est trop.
Même pas sélectionné.
Non, même pas sélectionné, mais pour moi, il devrait même être devant lui. Pacho, ça a été un des joueurs les plus réguliers au monde de la saison dernière. Je comprends pas qu'on lui préférait Marquinhos, par exemple. Et donc là, Doué aussi, pareil, c'est des joueurs qui, pour moi, qui passent derrière, des joueurs qui n'ont même pas été nominés, même si j'adore le profil, je suis sûr que ce sera un très, très grand joueur.
Est-ce
il a 20 ans.
J'ai une petite question pour toi, Lucas. Est-ce que tu nominerais Pacho à la place de Van Dijk?
Ah oui.
Pour la saison 2024-2025, totalement. Je trouve que Pacho est un top 3
défenseur
mondial.
Il a choqué le monde l'année dernière.
Il a été impassable. C'est sa cuisse qui sauve Paris à Aston Villa aussi. Sinon, Paris, c'est dehors en quart de finale et on part encore de la loose. Hein. Donc, il a ses moments clutch. Il a eu une présence physique extraordinaire. Il a stabilisé Marquinhos, en fait. Marquinhos, depuis le départ de Thiago Silva, on a l'impression qu'il est orphelin, qu'il n'arrive plus à avoir la même sérénité. Et là, il a eu Pacho à côté de lui. Comme par hasard, il a retrouvé cette sérénité. Pour moi, c'est très, très fort ce que Pacho a fait. Ça a été vraiment un des joueurs européens les plus réguliers. J'ai en souvenir un match en Ligue 1, je crois que c'est à Nantes, où il se fait un peu bouffer et tout. Mais sinon, il a toujours été au niveau. Pour moi, c'est ce genre de joueur qu'il faudrait voir au Ballon d'Or.
Mais ça pose la question aussi de la légitimité de ceux qui votent pour le Ballon d'Or finalement, parce que tu le disais, Désiré Doué, il fait une grosse finale, et c'est ce qui explique aussi qu'il est dans
le top 30. Il met un but extraordinaire contre Aston Villa, mais sinon c'est...
Qu'il est dans le top 30, mais ceux qui votent, c'est aussi les émotions, c'est aussi, faut pas se mentir, il y a des gens qui votent, tu vois des
oui, on a vu les
trucs.
C'est comme le débat Yamal Rafinha. Et tout le monde a mis à la poubelle la saison de Rafinha.
Ouais, parce que
Yamal a choqué en demi-finale.
Bah justement, autant nous, observateurs éloignés, pourquoi pas, mais des gens qui votent, normalement, t'enlèves toute émotion, t'es rationnel, tu regardes toute la saison, tu te dis, ouais, Patu, il a fait ça toute cette saison.
Aujourd'hui, en termes de rationalité, comme tu dis un peu, je sais pas si ça se dit, mais Abou, est-ce que toi, tu mets Lamine Yamal dans le top 3?
Si je suis rationnel aujourd'hui, oui. Je le mets dans le top 3, mais pas pour les. En tout cas, pas sur les critères qui sont émis pour le Ballon d'Or. Enfin, les trois critères pour le Ballon d'Or, c'est caractère décisif du joueur.
Individuel.
Et ouais, il y a ça, il y a trophée collectif remporté avec l'équipe et fair play, c'est ça?
C'est ça.
Après, il y a des déclinaisons, après, c'est trois grands.
Ouais, il y a des petits trucs en dessous.
Ils expliquent un petit peu ce qui est attendu.
Classe du joueur, tout ça. Exactement. Ils ont mis plein de choses dedans. Enfin, moi, dans classe du joueur, par exemple, je le mets. Mais si tu prends les trois critères essentiel du truc, tu le mets pas dedans.
Ah si, moi je le mets quand même.
Non, moi je le mets pas dans le top 3.
Je vais expliquer pourquoi, parce qu'on parle de Rafinha. Rafinha, il était beaucoup plus décisif en termes de buts et de passes décisives. Mais moi j'ai l'impression que le. Et on l'a vu même ce week-end, même s'ils ont gagné 3-0, en fait le Barça, il joue pas de la même façon quand il est pas là. Quand il est pas là, Lamine Yamal. Et en fait, il crée tellement de choses, il y a tellement de passes clés, comme on dit maintenant, tellement d'occasions de créer. Ça rend fou les adversaires, ça les fatigue. Et pour moi, Rafinha. Avec quelques buts exceptionnels et quelques grosses performances, j'ai pas du tout envie de lui enlever le mérite. Il fait une très très belle saison, mais j'ai l'impression qu'il a
de LDC,
voilà, et non, mais avec des performances, des buts de grande classe. Je crois c'est contre Bayern et contre Benfica, il met des buts extraordinaires. Non, c'était la grosse classe Rafinha, mais je trouve qu'il a beaucoup profité aussi d'espace créé par Lamine Yamal pour faire une aussi belle saison. Et pour moi, vraiment, les deux dépositaires du jeu, les deux joueurs les plus importants du Barça aujourd'hui, c'est Pedri et Yamal. Rafinha, il est derrière, il est dans les plus importants, il fera des très grosses saisons encore, j'en ai aucun doute. Pour moi, les deux joueurs vraiment qui ne bougeront pas, qui vont être les pierres angulaires de leur système, c'est ces deux-là. Et c'est pour ça aussi que je m'étonne que Pedri ne soit pas dans le top 10.
Jason, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça?
Après, pour moi, Yamal, les gens, ils le mettent plus pour son esthétisme dans les trois premiers. Parce que, comme je viens de le dire, les gens, ils ont été choqués de la demi-finale. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils l'ont découvert à ce moment-là.
Et la Supercoupe d'Espagne, où il n'y avait pas de foot à ce moment-là. Et tu sais, il y a eu les deux, l'aller-retour Supercoupe d'Espagne, Real Madrid-Barça, où il a été exceptionnel. Et du coup, ça fait des matchs aussi en mode de vision.
Mais c'est, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il est très bon. Bon, après, il est très bon contre tout le monde. Mais il a été très, très, très bon contre des grosses équipes à des bons moments. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup plus marqué. Alors que pour moi, un Rafinha, tu vois, c'est... Tu l'entendais constamment. Constamment, chaque week-end. Oh, soit il a fait une passe D, oh, soit il a marqué. Oh, il a fait une passe D, soit il a marqué. Et le moment où Rafinha, il a eu un petit coup de mou et que Yamal, après, il est vraiment, mec, a montré aux yeux de tout le monde que c'était lui qui avait les clés du jeu du Barça, tout le monde a oublié Rafinha. Et ça, je n'ai pas compris.
Mais alors, ça prouve juste que ceux qui votent, ce qui compte, c'est ta fin de saison, en fait. C'est ouais, ta c'est dernière ça. Impression. Et c'est pour ça que lors des élections présidentielles, les candidats, ils n'ont plus le droit de parler 48 heures avant. Parce que les gens vont aller sur leur dernière impression et ils vont voter sur ce qu'ils ont vu en dernier de toi. Donc, tu peux avoir fait une saison de fou. Si tes deux derniers mois, ils sont un peu moins bons.
Tu ne seras pas dedans.
Et alors que tu peux commencer mal ta saison comme Dembélé. Mais si de janvier à juin, t'exploses tout,
et je vais défendre Dembélé, ils sont pas si mauvais ces premiers mois en plus. Il était quand même sur un, comment dire, notamment au niveau des buts, il était sur un rythme supérieur à ce qu'il avait toute sa carrière. Je crois qu'il est à 10 buts à mi-saison, ça fait une saison à 20 buts. Dembélé, il a pas de saison à 20 buts jusque-là. Hein. Donc en fait, il était déjà au-dessus de ses standards habituels. Après, il y a eu 2-3, il y a notamment l'expulsion contre le Bayern en Ligue des Champions qui ont fait qu'on a un peu un regard sévère. Et il a eu du mal à marquer au début en Ligue des Champions aussi. Mais pour moi, Dembélé, toute sa saison est bonne. Et en fait, à partir de janvier, c'est juste qu'en fait, c'est le Ballon d'Or incontestable.
Mais la première partie de saison de Dembélé, quand les gens ils disent qu'il n'a pas été très bon, c'est parce que c'est dans le contenu. Au niveau de la finition, tu voyais des trucs, en fait, tu te disais...
Il continue à viser les pigeons plutôt
voilà,
que...
Voilà, exactement. Et c'est de là que tu te dis, et à partir de janvier, au lieu que ce soit les pigeons, c'était toutes les lucarnes. Ils connaissaient la cage par cœur. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé?
Est-ce que... l'histoire de Rafinha et Yamal, ça ne fait pas penser un peu à Bellingham, Vinicius, Bambori?
un peu quand même. Moi, ça me fait plus penser, par exemple, sur cette saison-là, à Barcola et Doué. Par exemple, pour moi, Barcola devrait être devant Doué. Mais Doué, il a saisi le bon moment. La deuxième partie de saison, quand tout le monde regarde, c'est là qu'il a été le plus décisif, où il l'a fait. Et comme Lucas le disait tout à l'heure, il a un peu surjoué quand même. Il faisait un peu le Neymar dès qu'il a vu qu'il y avait une hype autour de lui. Des fois, il abusait un peu de ses gestes. Et pour moi, Barcola, il aurait dû être dans les 30. J'enlève pas Doué des 30, hein. Mais Barcola, il aurait dû être devant Doué. Et moi, ça me rappelle un peu Rafinha et Yamal sur ce coup-là.
Devant Cole Palmer, c'est ouais, sûr aussi. Je vais pas le lâcher lui aujourd'hui.
Après, Barcola, il a le rôle ingrat des deux parce que au moment où on l'attendait, ouais. Eh ben, il a été le moins décisif et Doué lui est passé devant.
Et Gvara, qui n'était pas prévu dans l'équation, c'est aussi, ça. Qui a renforcé le
après, la Gvara, rotation du PSG. On savait qu'il allait passer dans les trois tôt ou tard. Ils l'ont recruté, c'était pour être dans les trois de devant. Ça, on le savait. Mais on avait toujours cette hésitation entre Barcola et Doué. Mais au bout d'un moment, il n'y avait même plus cette hésitation. C'était, on savait direct que ça allait être Doué. Ouais. Et c'est là où Barcola, il a perdu.
Ce qui pose la question de, finalement, est-ce que c'est si important que ça, ces trophées individuels ? Est-ce qu'ils ont vraiment du sens ? Est-ce qu'ils veulent vraiment dire quelque chose ?
En tout cas, le Ballon d'Or, pour moi, ils ont perdu en crédibilité depuis pas mal d'années maintenant.
Harry Kane, 13e.
Ça me va.
Pour toi, c'est haut. Hein. Pour toi, c'est haut. Si ça te va, je pense que pour toi, c'est assez
quand
haut.
Même, quand même, il a fait une grosse saison.
Devant Jokeres, devant Désiré Doué, devant Lewandowski, devant Vinicius, devant McTominay, devant João Neves, devant Lautaro Martinez.
Devant tous ces noms, oui, mais pas Lewandowski. Parce que quand même, avec le Barça, il fait une grosse saison. Lewandowski marque beaucoup. Et quand même, il finit deuxième meilleur buteur.
De Ligue 1, ouais.
Ils prennent la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi aussi.
Oui, c'est la Coupe du Roi aussi.
Ouais.
Pour moi, Lewandowski l'aurait mis plus haut dans le classement.
Et Lewandowski, il a eu un peu le rôle ingrat hein, parce qu'il a mis des buts très importants où il y a des fois même, même contre l'Inter, hein, quand ils perdent, c'est Lewandowski qui... Parce qu'on oublie aussi, hein, mais ils étaient tous dans le dur, les joueurs du Barça, y compris Lamine Yamal. Hein, et c'est quand Lewandowski fait cette mini-reprise but et il relance, il remotive. Et ça est arrivé plusieurs fois, hein, Lewandowski mettre des buts importants, même face au Real. Hein, face au Real, c'est lui généralement qui ouvrait la marque. Et on a oublié son importance tout simplement. Parce que quand il n'était pas là, on mettait Ferran Torres. On disait non, Ferran Torres, ça ne va pas le faire. C'est en deuxième partie, Ferran Torres, ça a été mieux, mais ça ne l'a pas fait. D'ailleurs, Ferran Torres, il a été sélectionné.
Non, mais Lewandowski, je pense qu'à son âge, qui joue contre lui aussi, c'est tellement écrit qu'à la fin de saison, il part. Il a 38 ans, ça fait 15 ans qu'on le voit faire des dingueries. Il y a toujours cette besoin de renouveau avec le football et on se dit peut-être qu'un autre joueur ferait mieux à sa place. Mais effectivement, Lewandowski, ça reste super sérieux. Mais moi, je ne suis pas choqué par la place d'Harry Kane. Harry Kane, il y a un truc qui m'impressionne beaucoup chez lui, c'est sa régularité. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui passent au travers. Harry Kane, c'est quand même très, très rare. Il est létal devant les buts, il fait bien jouer ses partenaires. C'est quand même le gage de sécurité absolue pour un mec qui va être toutes les semaines à un gros niveau de performance. Et pour moi, du coup, cette 13e place au Ballon d'Or, elle récompense ça. Et là, pour le coup, je trouve que c'est quand même... il a sa place, quoi, Harry Kane.
Pour toi, il a sa place, mais ça ne te dérange pas quand il a eu la double confrontation contre l'Inter et qu'il y a eu cette action où il aurait pu faire cette différence et il ne l'a pas faite.
Non, mais t'as
raison. Parce que c'est Harry Kane, c'est des petits moments comme ça qui manquent, comme à l'Euro,
à la Coupe du Monde.
Exactement.
Ça va lui coller à la peau. Mais après, le fait qu'il ait 10 ans à Tottenham, ça va lui coller à la peau aussi.
Entre Harry Kane et par exemple le Lewandowski du Bayern, c'est que Harry Kane, on l'attend dans les gros moments. Et dans les gros moments, pour l'instant, il n'a pas encore répondu présent.
Pour moi, c'est qu'il a choisi de jouer à Tottenham pendant 10 ans et du coup, il n'a gagné aucun titre avec un effectif médiocre autour de lui.
Ah
et
oui,
ça va biaiser
non,
toute la vision qu'on a de sa carrière.
Harry Kane, c'est actuellement, c'est
top 3 à son poste.
Ouais,
hein.
des meilleurs 9. Mais dans les gros matchs, par exemple avec le Bayern, on ne le voit pas autant que Lewandowski quand il était au Bayern. Tu vois, tu sentais que tu avais ton 9 et qu'il pouvait faire la diff. Mais Harry Kane, quand tu joues contre les gros, tu sais toujours pas si, tu vois, il va faire la diff ou pas.
Après, Lewandowski en 2020, après c'est le Final 8, c'était particulier. Mais sur le Final 8, Lewandowski, c'est loin d'être le meilleur joueur du Bayern. Tu vois, il marque pas. En finale, il est quasiment inexistant contre Paris. En demi, quand la victoire contre le Barça, je crois qu'il marque. Mais
non, contre Lyon.
Contre Lyon, c'est vrai. Ah, il met doublé contre ça, ouais.
Un collab sur le Bayern.
Doublé ou un but avec Gnabry, mais les deux autres. Non, Gnabry, il en met deux, Lewandowski, il en met un.
D'accord, c'est ça. Mais, et même contre le Barça, c'est pas non plus lui qui va changer le match. Il y avait d'autres joueurs qui ont été excellents. Il a très haut niveau de performance, tu vois. Mais tu peux avoir des moments où t'es moins bien, et dans les très grosses équipes, il y a tes coéquipiers qui vont prendre le relais. Kane, ça n'a pas été possible parce qu'il a choisi de jouer à Tottenham, ce sera de sa faute, il va l'assumer, il a prolongé en son âme et conscience, etc. Mais ça va un peu biaiser du coup, je pense, le regard qu'on a, où on va être très très sévère avec quelques mauvaises performances, alors qu'en fait tous les attaquants, tous les joueurs ratent des matchs à certains moments.
Mais là, est-ce que en mémoire, t'as un match de Kane en Ligue des Champions contre une grosse équipe qui t'a choqué?
Non, parce que même avec Tottenham, l'année où ils font la finale, il est blessé la plupart du temps. C'est Lucas Moura qui les sauve. Donc non, effectivement,
j'ai pas Tottenham depuis qu'il est au Bayern.
Non, j'ai le début de saison en tête. Les triplés qu'il a mis en ce moment.
C'est ça le truc.
Après, en Ligue des Champions, quand même, même contre l'Inter. Après, Kane, ça va être un profil différent de Lewandowski. Il marque contre l'Inter,
il marque.
Et aussi, ça va être plus dans le jeu aussi. Même s'il ne marque pas ou il fait pas de passe décisif, il va défendre.
Il est très juste.
Il va faire le milieu de terrain
dans
un
le
peu.
Jeu, oui, dans le Donc jeu, il n'y a rien à dire. Attend toujours ce poster complet, très, de lui dans les tours où le Bayern l'ont pris pour faire passer ce cap-là.
Je voulais revenir sur quelque chose. En même temps, on suit la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroule à merveille, en tout cas sans les joueurs du Real Madrid d'ailleurs et sans les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont en train de jouer. Petite entrée de Didier Deschamps qui se fait siffler sur le tapis rouge. Est-ce que vous comprenez
Je comprends pas pourquoi il se fait siffler Deschamps.
Quoi avec la liste qui va arriver.
C'est pas pour les blessures de Doué et Dembélé.
Ouais, c'est sûrement ça. C'est pas le lieu pour faire ça, en tout cas, pour moi.
C'est dur de siffler pour un coach. Enfin, chacun est dans son intérêt à un moment donné. Le PSG a autant d'intérêt que Didier Deschamps en a avec son équipe de France. Donc là, ouais, non, je trouve ça ridicule.
Et en même temps, emmené par Ousmane Dembélé, la délégation du Paris Saint-Germain vient d'arriver au théâtre de Châtelet avec João Neves et sa petite amie. Ensuite, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, accompagné. Ils sont bien accompagnés. Hein.
Il est là-bas, Nasser ?
Il me semble que Nasser...
Oui, normalement, il devrait être
normalement, mais je ne le vois pas, je ne l'aperçois pas pour l'instant. Mais pour l'instant, on voit bien Ousmane Dembélé, Désiré Doué...
Ce qui est l'occasion aussi de dire que c'est ridicule. Enfin, depuis hier, je vois des débats sur le fait que le match a été reporté. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas vous, messieurs, mais je trouve les débats ridicules autour de ça. Enfin,
Le règlement est appliqué.
La règle, elle stipule que pour cause météorologique, un match il est reporté le lendemain à la même heure. Tu le reportes le lendemain à la même heure. Ballon d'or, pas ballon d'or, je vois des trucs.
Bah, le match, ça devait être 21h.
Ils l'ont mis à 20h, je ne sais pas pourquoi, mais. Comment on appelle ça
le match il doit jouer dans les 24 heures qui suivent.
Donc t'es dans les 24 heures.
Si les deux clubs s'arrangent pour une date ultérieure.
Et il n'y a aucune date qui a arrangé l'Olympique de Marseille.
Ça aurait pu être à 15h. Mais
ça arrange. Ça arrange pas les supporters.
Il a demandé aussi 18h. Ouais. Même pour les supporters.
Ça arrange pas, tu sors du travail. Déjà qu'on te décale d'un jour.
Mais si Marseille ne jouerait pas la Ligue des Champions, ils auraient déplacé, je pense, en décembre. Mais comme Marseille doit jouer Strasbourg vendredi et mardi, rejoint encore en Ligue des Champions.
Je trouve que tu es confiant. Même si on ne jouait pas à Ligue des Champions, je ne suis pas sûr qu'il le déplace.
Non, il le déplace.
C'est le moment pour les jouer.
Je pense qu'il l'aurait déplacé.
C'est le moment pour le jouer.
Non, je pense qu'il l'aurait déplacé.
L'OM ?
Non, je pense
pas. De le déplacer ?
Non,
dans aucun cas.
Soit il l'aurait déplacé au mardi. Au mardi, il aurait déplacé Strasbourg samedi. Mais
il faudrait que les diffuseurs, c'est pas que eux qui c'est pas que eux qui acceptent.
Et pareil, tu mets les supporters de Strasbourg dans un problème dans
cas, parce que ça sera en dehors du Ballon d'Or.
Dans le micro, s'il te plaît, Jason.
Les diffuseurs, ça les aura arrangés.
Oui, mais tu poses le même problème avec les supporters de Strasbourg en fait. C'est pareil, après il faut que eux tu pouvais pas le décaler.
Par rapport aux supporters de Strasbourg, t'inquiète pas que la LFP, ça c'est pas leur problème.
Oui, mais
comme si admettons ça aurait été Lorient à la place de Marseille, ils auraient même pas cherché à demander leur avis. Auraient déplacé le match et point.
Ça, c'est un problème.
Oui, mais ça, c'est un problème. Il y a des règles. Vécu, ça.
Les règles, elles sont faites pour être appliquées. Et là, j'ai vu aussi, à la mi-temps, là, il y a une altercation verbale entre Luis Campos et Mehdi Benatia pour
des décisions arbitrales depuis le début de match qui font polémique aussi hein, entre OM et Paris.
Mais j'ai l'impression qu'entre les deux clubs, c'est devenu plus politique qu'autre chose. Il y a ce truc où Longoria se rebelle contre Nasser El Khelaïfi. Avec le président Blanc.
Depuis qu'il y a eu les propos aussi de ma cour,
c'est devenu politique entre les deux.
On a vu Kita aussi, hein, qui s'en est pris à Pablo Longoria.
Depuis qu'il y a la guerre entre guillemets entre Marseille et Lyon aussi, mais limite on a l'impression que la rivalité PSG-OM elle a moins d'ampleur, en tout cas pour les supporters, avec davantage de griefs contre d'autres. Donc c'est vrai que ça, en tout cas au niveau sportif, en plus la comparaison elle a plus lieu d'être.
Il n'y a plus
la passion des années 2000, quoi.
Mais en plus, par rapport au match, Dans tous les cas, avec tous les blessés qu'il y a au PSG, ça n'arrangeait pas sportivement aussi Marseille de déplacer le match 6 mois après, tu vois, ou 3 mois après.
Non. Bien sûr que ça arrange. T'allais récupérer que Kondogbia, eux ils récupèrent Dembélé.
Ils récupèrent toute l'armada.
Mais en plus, tous les matchs, les joueurs dans un calendrier particulier, quand tu vas jouer une équipe, peut-être que l'équipe que tu vas jouer demain, elle sera blessée. Peut-être que toi, après, tu auras des blessés. L'équipe que tu joues après, elle sera au top. C'est le calendrier. Donc en fait, pour moi, la justice aussi, c'est que Marseille-Paris se joue ce soir. Je suis très content que tout le match n'ait pas été déplacé. Si Paris doit perdre, ainsi soit-il. Hein, mais au bout d'un moment, c'est comme ça. C'est l'eau d'une saison. Quoi. Ouais.
Et tant que celui qui doit recevoir le ballon d'or est présent à la cérémonie, j'ai envie de vous dire, c'est le plus important.
En plus, ça tombe bien.
On va poursuivre un troisième, il me semble, quatrième, non, troisième personne, c'est bien ça, quatrième personne du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, 12e. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est une bonne place. Hein. 12e, en vrai de vrai, c'est la deuxième partie de saison où il joue
bien. Après la première partie de saison, il était à Naples. Et la première partie de saison à Naples, elle n'est pas non plus.
Mais elle est bonne quand même. Hein. Ils sont premiers quand ils partent.
Premier, mais si tu vois ses prestations, très râleur, pas content de sa situation, très personnel. Si tu remarques bien, c'était pas le même Guevara de Naples et du PSG.
Après, a-t-il tort, a-t-il raison?
Moi je sais pas.
Je pense qu'on l'a tous vu. Hein.
Non, mais je te parle de l'attitude qu'il a eu à Naples après.
Je pense que, voilà. Oui, après, c'est vrai que la tenue. Voilà. Donc, Kvaratskhelia, 12e, ça convient à tout le monde. 11e place, qui ne fait pas partie du top 10.
Pedri,
Bambori qui dit non de la tête. Non. Pour toi. Pedri aurait dû faire partie de ce top 10.
Ouais, pour moi, il aurait dû être top 10. Hein.
Même top Pedri. 5. Il est plus top 5 que top 10. Quoi. Bah, oui.
Ah, Pedri plus top 5 que.
Ah ouais, pour moi, Pedri, c'est, avec Vitinha, c'est de loin le meilleur milieu de terrain qu'on a eu la saison dernière. Je trouve la façon dont il a d'aérer, on va dire, le jeu de Barcelone, c'est extraordinaire. Depuis qu'il a fait sa saison à 70 matchs où il s'était beaucoup blessé, on ne l'avait pas revu à un niveau. Il était revenu très très bon l'année dernière. Et là, il a repris toute sa confiance, toutes ses qualités techniques, c'est vrai, c'est le boss en fait au milieu à Barcelone. Et pour moi, vu la saison qu'ils font, vu le niveau qu'il a atteint, ça méritait mieux qu'une 12e place. Encore une fois, surtout au regard de certains joueurs qui sont dans le top 10 ou qui sont dans les mêmes positions que lui. C'est pas très compréhensible pour moi.
Merci, Lucas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jason?
Oh, moi, ça me dérange pas. Franchement.
Après,
Pedri, c'est... On connaît comment fonctionne le Ballon d'Or. Pedri, c'est un extraordinaire joueur. Mais comme comme on disait tout à l'heure, les personnes qui voient ne voient pas les stats, ne voient pas les passes qu'il effectue chaque week-end, comment il maîtrise le jeu. Donc mais pour
c'est un problème.
Ah oui, mais après ça, c'est pas nouveau.
Ouais, mais
c'est des problèmes qui sont pas nouveaux.
Mais c'est un vrai souci.
Combien de fois au Ballon d'Or, il y a des mecs qui ont été positionnés lointains parce qu'en fait, ils ont un jeu de l'ombre. C'est pas le gars qui score tous les week-ends, c'est pas le gars qu'on met en lumière tous les week-ends, met plus Yamal tous les week-ends. Donc les gens qui habitent en Asie ou je ne sais où, ils voient plus.
Et bien, ils voient la première ligue de toute façon, ils voient que la première ligue.
Et la nouvelle formule a été pour. L'année dernière, quand il les donne à Rodri, c'est ce qu'il nous explique. On a fait une nouvelle formule, maintenant on récompense les joueurs de foot, patati patata. La nouvelle formule, elle sert aussi à ce que lorsque tu fais ton classement, un joueur comme Pedri ne se retrouve pas hors du top 10. Et c'est pour ça qu'en Bambouri, tout à l'heure, il disait ça a moins de c'est moins clinquant le Ballon d'Or aujourd'hui. Oui, ça n'a pas de sens, en fait.
Oui,
tout ce qui
sens.
Est fait dans cette compétition n'a plus de sens.
Pour moi, la formule, elle change chaque année. Cette année, ils veulent faire gagner lui, mettre une formule adaptée pour lui. L'année prochaine, ils veulent plus.
Mais c'est grave.
Ouais, c'est exactement
moi,
ça.
Et quand ça leur
arrive. L'année dernière, ça a parlé de fair play, ça a mis le fair play en avant.
En fait, je suis pas totalement d'accord avec vous. Ça arrive depuis plusieurs années. Zidane, il perd un ballon d'or. Je crois que c'est en 2006. Non, même pas celui-là. Il s'était battu. Il était encore à la Juve. Il s'était battu. Je crois que c'est l'année où il gagne l'Euro 2000. Donc je pense que c'est 99-2000. Où il doit aussi le remporter. Mais il a été aussi. Là, c'était unanime. Les journalistes, ils l'ont déclassé à cause de son comportement sur le terrain. Bon, le fair play, on en pense ce que l'on veut. C'est important aussi. C'est un exemple, etc. etc. Moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'au-delà de on dirait qu'ils veulent faire gagner quelqu'un, etc., en fait, c'est plus lisible du tout. Les règles, elles changent effectivement régulièrement. Les critères changent. Donc, en fait, il y a une année où un joueur l'aurait mérité. L'année d'après, peut-être qu'il ne l'aurait pas eu. Et on n'aura pas tous les ans des ballons d'or, on va dire, évidents, comme ça peut être le cas de Benzema il n'y a pas très longtemps. Là, quand il y a du débat, effectivement, il faut qu'il y ait des critères qui soient précis, définis, pour qu'on puisse dire, voilà, lui, on va plutôt le mettre en avant, et que c'est pas uniquement de l'émotion. Parce que là, en fait, on a l'impression que c'est uniquement l'émotion, et que c'est pour ça que Yamal, il est très haut aussi. Parce qu'il a fait vibrer tout le monde, qu'il est extraordinaire, et que voilà, si on s'arrête à l'émotion, bah, même un joueur qui, de façon objective, n'est pas armé pour gagner Ballon d'Or, bah, on peut le mettre, et ça dérangera personne.
Yamal qui remporte d'ailleurs, je crois, le Copa, premier trophée de la soirée. Ouais. Donc, devant Désiré Doué et Ayoub Bouadji. Le Lillois qui finit troisième.
Boadji finit troisième, excellent.
Troisième. Ouais. Yamal Doué Boadji.
Ouais. Pourquoi vous avez...
Il y avait Koubarsi non dedans.
Moi, je pense à son futur club.
Il y avait Neves aussi dedans. Il y avait Neves aussi qui était. Je crois que Neves finit 4. Pas son futur club.
Bon, moi, j'aimerais bien que ce soit Paris, mais il y a beaucoup de clubs. Boadji, c'est le genre de. Voilà, le Ballon d'Or, comme on disait, c'est aussi être validé par ses pairs. Et là, on voit que Boadji, troisième, considéré comme le troisième meilleur jeune européen. On avait ses performances contre le Real en Ligue des Champions, ça joue beaucoup. Et en fait, c'est déjà un joueur. Il a 18 ans à peine, je ne sais même pas s'il les a
encore. 17 encore.
17 encore, tu vois. Il est déjà titulaire à Lille ou dans les 13 joueurs qui vont jouer le plus de matchs. C'est extraordinaire ce qu'il fait.
Et Giroud qui en faisait des éloges, qui disait j'ai jamais vu un joueur.
Un joueur aussi jeune, ouais, très sérieux, etc. Non, c'est ouais, très fort. Mais c'est mérité pour Yamal, de toute façon, on ne va pas y revenir.
Après, pareil, ouais, ce qui se passe derrière, on ne calcule pas en fait. Et c'est le premier joueur, je crois, Yamal, qui remporte deux fois d'affilée le trophée Copa. Ouais. Je ne peux pas souvenir que c'est déjà été fait avant.
Oui, il me semblait que...
Après, pour en gagner 4, lui. Hein,
non, mais il me semblait que tu ne pouvais pas en gagner...
Ils ont encore changé. Golden Boy.
Ah oui, c'est le Golden Boy.
En fait, c'est ça le problème. Okay. Le Golden Boy, on ne peut pas le remporter 2 années de suite, mais tu peux quand même être nominé, je pense. Mais le trophée Copa, tu peux le prendre autant d'années que tu...
Mais là, tu ne peux pas le gagner.
Il va le prendre 4 fois, Yamal.
C'est pour ramener ta famille.
Je ne vois pas l'intérêt, du coup.
Ouais. C'est vrai que c'est compliqué.
Comme on disait, ils inventent toujours des trucs, parce que je viens de penser à Lewandowski quand ils ont inventé le nouveau trophée là, de canonnier ou je sais pas quoi. Là.
N'importe quoi, vraiment.
Juste pour le consoler.
Bah ouais, parce qu'ils l'ont pas donné en 2020, alors que tout le monde a joué sauf la Ligue 1, qui avait aucune raison d'annuler la cérémonie, que tout le monde se demande pourquoi ils l'ont fait.
Mais c'est vrai que sur le fair play, t'as raison, parce que je crois que 2006, ils le donnent pas à Zidane, encore une fois pour le fair play. Pour son coup
ouais,
de
c'est ça que je dis. Ouais, 2006, ils le donnent pas pour ça.
Zidane, on l'adore.
2006,
hein.
Ils le donnent pas pour ça, sinon c'est lui.
Il l'a raté beaucoup de fois. Ouais, il l'a raté 2 fois pour ça. Sinon, Zidane, c'est 3 ballons d'or minimum.
Je suis pas sûr qu'il le vu sa saison réelle, franchement, s'il le prend en 2006, c'est dur pour tout le monde.
Ouais, mais c'est la Coupe du Monde qui compte. Vous voyez, quand Modric le prend en 2018, alors que Cristiano a des stats de fou malade.
Pour moi, c'est parce qu'il fallait changer. Pour moi, c'est le plus politique des Ballons d'Or, celui de Modric. Tu récompenses un nom, une carrière incroyable, et tu mets fin à Ronaldo, Messi.
Je pense que surtout, c'est parce que Cristiano part du Real. Du coup, le Real ne font pas campagne pour lui. C'est surtout ça.
Ah, la Juve, ça reste un immense club aussi.
Il n'y a pas de souci, mais loin du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est the club, excuse-moi. Mais, et surtout, en vue du Ballon d'Or, même là, on a pu voir les représentants du Ballon d'Or aller voir des représentants du Real Madrid pour essayer de faire passer la pommade, ce qui a empiré encore leur relation. Mais tu vois quelle importance, là. On voit bien Vinicius qui n'est pas là, Rodrigo, Bellingham, Mbappé... des joueurs qui peuvent être potentiellement Ballon d'Or sur les futures années. Donc, ne pas les avoir à cette cérémonie, c'est un coup quand même. Mastuono, on voit Arda Güler.
Mais
franchement,
ils seront là l'année prochaine. C'est un petit club de boudeurs, le Real. L'année dernière, personne n'a le droit d'y aller, c'est bloqué. Cette année, vous avez le droit d'y aller, mais si vous n'y allez pas, c'est pas grave. Enfin, cette année, j'ai vu que les joueurs avaient le droit d'y aller. C'est les joueurs qui ont eux-mêmes fait le choix, parce que je crois qu'ils ont un match... Le Real doit jouer dans pas longtemps là. Enfin,
ouais,
on les envoie pas. L'année prochaine, ils seront là parce qu'ils savent qu'il y a des chances qu'un de leurs joueurs le remporte. Real aussi, c'est un grand club de boudeurs. Hein. Beaucoup de caprices.
Après, je pense que c'est surtout en vue de ce qui s'est passé l'année dernière, ça s'est pas fortement arrangé. Hein. On a pu voir, c'était assez compliqué quand même ce qui s'est passé l'année dernière. Mais voilà, on va se faire juste une petite pause. Avant de revenir, on va parler un peu de la Ligue des Champions. En vrai, on va enchaîner direct.
Enchaînons,
c'est mieux.
On est prêt, Okay.
Ligue des Champions, hein, on a pu voir Marseille perdre face au Real Madrid, 2-1. Beaucoup de faits de jeu, notamment 2 pénaltys pour le Real Madrid, un doublé de Kylian Mbappé qui marque encore et encore face à Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez de la performance des Marseillais? Abou?
Abou
qui a perdu sa voix, je pense que ça bouge.
Il va parler de la défaite.
Non, parce que je trouve ça dommage pour les Marseillais, je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là. Je pense que tout n'a pas été bien fait. Après, j'ai envie de vous dire, celui qui a le mieux analysé le match, c'est Mehdi Benatia, finalement. Quand il t'explique que les joueurs sont arrivés en ayant un peu peur, en ayant un peu cette crainte du Real Madrid, et tu mets du temps à rentrer dans le match. Et une fois que tu es rentré dedans, tu fais pas tout bien. Il y a Kondogbia, c'est dommage. Hein. Il fait un aussi bon match qu'un mot. Enfin, que enfin, l'erreur, elle coûte, quoi. Enfin, il fait pas un mauvais match, il fait un bon match dans l'ensemble, mais l'erreur, elle coûte. C'est, il, a une...
il est monté en puissance en deuxième mi-temps, là. Il sort à la 65e, ouais, je crois, mais ses 20 premières minutes, elles sont.
Et même les ressorties de balle.
Même Højbjerg, il devient meilleur parce que Kondogbia est à un super niveau. Ouais, était, clairement.
Et après, il se blesse derrière, comme d'hab, Kondogbia, de toute façon. mais non, je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là. C'est un peu dommage, surtout quand tu es à 11 contre 10. Le coaching de Roberto De Zerbi, bah, les joueurs que tu fais rentrer, c'est des joueurs normalement qui doivent aller tout dynamiter, qui doivent aller. Tout donné, ben non, tu fais rentrer Pachao qui joue en arrière, je comprends, ben, j'ai rien compris à l'entrée de
Pachao. Après, c'est pas de la faute de Zerbi si Pachao, il a choisi qu'il n'allait pas dribbler, qu'il n'allait pas provoquer, que dès qu'on lui passait un ballon dans de bonnes conditions, il allait plutôt attendre et revenir en arrière.
Mais est-ce que c'était pas prévisible? Est-ce que t'avais pas d'autres joueurs que tu sais qu'ils allaient mettre plus de dynamique?
Dans ces cas-là, t'aurais voulu un jeune, t'aurais voulu Robinho Diaz qui va, qui se pose ouais, pas de questions. Mais c'est...
Ou Nadir aussi, je me rappelle de son entrée en Nadir, début oui, de saison
avec le PFC. Le problème avec la tactique de Zerbi, c'est que j'ai l'impression que les joueurs ils sont trop bridés. Ils travaillent un schéma qu'ils n'arrivent pas à, en fait, à passer au-dessus. Voilà. Mmh. Non, ils assimilent.
Ils n'ont pas de plan B. Voilà, quand ça ne marche pas, ils ont
exactement. Quand ça ne passe pas, ils continuent dedans. Ça veut dire qu'ils passent de gauche à droite, de gauche à droite. Et j'ai l'impression que c'est ça tout le long. Même en Ligue 1, quand ils tombent sur un bloc, c'est de gauche à droite. Moi, quand j'ai vu l'expulsion, je me suis dit, bon, là, ils vont décider de lâcher les chevaux.
Au contraire.
Et au contraire. Non, ils se sont écrasés. Ils se sont dit, bon, est-ce que le match nul, il n'est pas bon? Mmh. Ah, c'est
dommage parce qu'en plus quand on voit l'an dernier les prestations de Lille ou de Brest, on les avait justement loués parce qu'ils gagnent, ils ont pas mal de victoires dans les dernières minutes. Est-ce que Marseille n'a pas osé faire? Moi, ce qui m'a dérangé, enfin déjà, le match était plutôt équilibré quand même. Marseille a un peu paniqué au début, ils sont bien revenus, ils marquent leur but un peu chanceux, mais ça les lance vraiment. Et après, ils ont vraiment tenu tout au Real. Moi, ce qui m'embête, c'est un peu l'effet de jeu. Et je reviens pas sur les pénalties en soi, mais il y a quand même une main de Eder Militao. Mmh. Qui dévie un ballon qui partait au but, alors que la main de Facundo Medina, elle n'a aucune incidence sur le jeu. Et en fait, là, pour moi, ce n'est pas la faute du Real ni quoi que ce soit. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même certaines règles qui sont mal faites. Une main qui a une vraie incidence sur le jeu, on ne va pas la siffler. Et une autre, parce qu'elle est plus flagrante, parce que c'est vraiment la main qui touche, on va la siffler. Et ça m'embête un petit peu. Et je trouve que là, pour le coup, les Marseillais, ils ne sont pas vernis, quoi. Parce que franchement, Medina, son intervention, elle est magnifique. C'est le pied, c'est le tacle. Derrière, il a sa main qui touche le ballon, il a la main derrière lui. Qu'est-ce qu'il peut faire, franchement?
Il doit jouer sans main.
Pour moi, ses mains, je me rappelle encore celle de Kimpembe il y a quelques années contre United. Ouais, c'est des mains qui n'ont aucune incidence sur le jeu. Qui sont... bah, effectivement, tu touches de la main, mais ça n'a pas. T'arrêtes pas une frappe, t'arrêtes pas un tir. C'est juste. Et même, tu peux contrôler derrière. Enfin, il n'y a aucun danger. Et le fait que ces mains-là soient sifflées, ouais, j'ai un peu du mal à m'y faire.
Après, il faut quand même dire que ce qui a embelli aussi la prestation de l'Olympique de Marseille, c'est Rulli.
Magnifique.
Parce très arrêt.
Magnifique.
Depuis, parce que t'imagines, il y a le quart des frappes qui rentrent. C'est, on n'a pas la même analyse.
Ouais. Mais et t'as aussi, faut le dire, parce que quand il est mauvais, moi, on n'hésite pas à taper dessus. Carrément, moi, j'ai des posters de Balerdi chez moi avec des fléchettes, je jette dessus. Faut le dire, son match contre le match aussi qui sort Balerdi. C'est un très très bon match, quoi. Pour moi, c'est le meilleur de.
Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai Pavard aussi. Je trouve que Pavard, il monte en puissance. Je trouve qu'on voit quand même que c'est un vrai leader, Pavard, et que même si c'est pas toujours le meilleur, on voit qu'il a. Il parle avec ses partenaires, etc. Il va apporter quelque chose à Marseille. Et côté Real, je pense aussi que si c'est pas Massantono qui joue, Massantono, il est très très bon. On voit qu'il a du ballon, que techniquement, ça va être exceptionnel. Il rate notamment une occasion énorme.
C'est le Mbappé où il
est. Voilà, exactement. Il doit la mettre, celle-là.
Déjà, en début de saison, si tu rentres à la mi-temps avec.
C'est Rodrigo, il y a but.
C'est plus le même.
Ouais, pour moi, voilà, c'est ça. Et je me dis qu'en fait, il y a aussi. Je suis assez surpris que Xabi Alonso fasse autant jouer Massantono. Parce qu'effectivement, un joueur de 18 ans qui arrive d'Amérique du Sud, qui a déjà une saison longue, qui n'a pas eu beaucoup de vacances, etc. Je pensais qu'il mettrait même plus Brahim Diaz, qui est en train de disparaître quasiment de la rotation, alors que.
Avec le retour de Bellingham, ça va pas être plus facile pour lui.
Bah, c'est clair. Mais je pense même que là, à ce moment-là, mais pour Arda Güler aussi.
Moi, je pense que là, non. Je pense qu'Arda Güler
va jouer ailier droit, du coup.
Je pense que Arda Güler va jouer, oui, ailier droit, où il va essayer de reformer, il va nous faire quelque chose. Mais tu ne peux pas mettre Arda Güler en vue du début de saison. Tu vois que ça devient un métronome du jeu du Real.
Sûr, c'est un dépositaire.
C'est impossible de le mettre sur.
Mais
le
pour moi, même sans aller dans ces considérations-là, vu ce qu'a montré Massantono, c'est pas encore suffisant pour être titulaire dans le plus prestigieux des clubs au monde. Ouais. Donc voilà, je suis un peu surpris de la gestion d'Alonso, mais du coup, ça a pu servir au Marseille, parce que s'il a été plus adroit, je pense qu'il y aurait eu plus de buts, mais en fait, Marseille, ils ont tenu, ils ont été très très résilients en première mi-temps, et après, ouais, c'est l'expulsion qui change le... Carvajal qui change le match, mais en 11 contre 11, Marseille, ils n'avaient pas peur, et franchement, deuxième mi-temps, moi, j'ai plutôt bien aimé ce qu'ils ont montré.
Merci, Lucas. Marseille, du coup, qui... qui ont perdu tout simplement 2-1. On a vu le Paris Saint-Germain, hein, tout simplement, qui ont étrié cette équipe d'Atalanta. Hein. Tout le monde pensait que ça allait, y allait avoir un peu, en plus avec des absences comme Désiré Doué, Gonzalo Ramos aussi. On a vu Ousmane Dembélé, pardon. On a pu voir que ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, le Paris Saint-Germain ont surclassé tout simplement cette équipe de l'Atalanta. Qu'est-ce que tu en as pensé, Abou?
Bah, le PSG, enfin, l'Atalanta fait pas un bon début de saison. Hein. C'est un changement de coach. On en parlait la semaine dernière. C'est un changement de style. Et non, il faut y avoir...
pas le bon style sur ce match-là. Quand t'as vu le style qu'il a tenté Djuric, c'était pas
et,
le.
Et en plus, il t'explique en conférence de presse que si, lui, il a, c'est un entraîneur offensif, patati. Enfin, arrête, non, en fait.
Non, parce que tu l'as vu, en fait, sur scène. Il y a certaines situations où tu vois que le fait, en fait, ils jouent en individuel, effectivement, ils ont causé des problèmes à Paris. Mais en fait, Paris, ils ont fait leur meilleur match du début de saison. Ils étaient archi sûrs d'eux techniquement. Donc, ça veut dire qu'ils perdaient aucun ballon dans leur zone. Donc, le pressing de l'Atalanta était annihilé dès le début. Et en fait, après, il y a des boulevards. Et les 25 premières minutes de Paris, même l'an dernier, ils n'ont pas beaucoup joué comme ça, Paris. Honnêtement, ils ont été vraiment très, très bons. C'est pas pour. J'ai pas envie d'accabler l'Atalanta plus que ça, parce que même l'an dernier, tu vois, Paris joue Gérone au pré-match qui n'était pas super bon non plus, et ça passe sur une erreur du gardien à la dernière minute. La Paris, ils ne leur ont laissé aucune chance. La première demi-heure, Nuno Mendes, Barcola, même s'ils ratent les derniers gestes, les différences qu'ils font, ils les ont écrasés. Donc moi, plutôt agréablement surpris de la performance de Paris pour cette reprise de Ligue des Champions.
Barcola, hein, qui sera plus le tireur de penalty, je suppose, après ce tir. Bambouri, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la performance du Paris Saint-Germain et de Barcola avec le Paris Saint-Germain?
Quand même, ils ont fait un gros match, le Paris Saint-Germain. Je m'attendais quand même à un peu mieux de l'Atalanta, surtout en début de saison. Comme ça, on sait que le PSG, ils n'ont pas eu de vraie pré-saison. Donc physiquement, c'est un peu difficile. Et de voir que le PSG s'impose comme ça, facilement quand même, 4-0, malgré un penalty raté de Barcola, bah... Vraiment, c'est de bon augure pour eux pour la suite de la Ligue des Champions. Ils ne commencent pas comme la saison dernière, même s'ils l'ont gagné à la fin. Là, ils pourront viser le top 8 facilement s'ils continuent comme ça.
Okay, merci, Bambouri. Nuno Mendes qui a mis un fantastique but, hein, lui qui va faire partir du top 10 nominé au Ballon d'Or. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la progression de Nuno Mendes et aussi de sa performance, notamment en Ligue des Champions, Jason?
Il est sur la continuité de sa forme de l'année dernière. Hein. C'est pour moi, en ce moment, le meilleur arrière-gauche qui est en Europe ou même au monde. Franchement, c'est un dragster. Dans l'apport offensif, c'est un joueur qui sait combiner, qui sait même aller marquer, qui est très décisif. De toute façon, les deux latéraux parisiens, c'est deux armes fatales. Hein. C'est des attaquants en plus. Il n'y a que Chelsea qui avait réussi à déjouer ce système-là. Mais sinon, Nuno Mendes et Hakimi, de toute façon, il n'y a rien à dire.
Merci, Jason. Le match du Paris Saint-Germain, toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Hein. Nous sommes à la 70e minute, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Voilà, ça poursuit. Ballon d'or, pour l'instant, pas d'autres nouvelles. Pour l'instant, la cérémonie se déroule. On va poursuivre. Newcastle-Barcelone. Hein. Newcastle, au début de match, qui ont poussé face à cette équipe du Barcelone, mais n'ont pas réussi tout simplement à créer la différence. Attendez, excusez-moi, j'ai une petite info à l'oreillette qui me dit que Luis Enrique a été élu tout simplement Men's John, oui, Cruyff Trophée.
C'est mérité. Je pense que s'il n'y avait pas de doute là-dessus, il n'y avait pas de débat. Après, lui, il t'explique très bien, Luis Enrique, que les trophées individuels, on n'a un peu rien à cirer, quoi. C'est pas son problème. Alors, lui, le match, il se joue aujourd'hui, demain, après-demain, il serait pas allé à la cérémonie. Hein. Rien à foutre. Rien à faire de ça, ça le regarde pas. Enfin, j'aime bien ce coach. Enfin, je m'attache à Luis Enrique depuis la saison dernière. Je trouve qu'il a changé quelque chose dans sa manière de faire, de communiquer. Et ça se ressent aussi dans sa manière d'être avec ses joueurs. Et non, totalement mérité ce trophée-là.
Merci.
De toute façon, au fur et à mesure des résultats, on a senti qu'il a commencé un peu plus se relâcher, parce qu'au début, il était très froid, que ce soit avec les journalistes, il ne répondait pas trop vraiment aux questions, il embêtait un peu tout son monde. Et depuis que ça s'est détendu avec les victoires, et que la tactique qu'il cherchait à mettre en place depuis a commencé à prendre effet, ben là, on ressent Luis Enrique plus joyeux, plus expressif, que ce soit avec les journalistes ou dans la communication au bord terrain, tu vois, c'est un autre personnage.
Je crois qu'il sait qu'il est reconnu à sa juste valeur aussi. Donc en fait, il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus naturel, que ce soit dans son approche des matchs, avec les journalistes comme tu le dis, avec dans tout en fait. Et Ouais, pour moi, tu vois, c'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. Tu vois, il est très, il est, on a l'impression qu'il est très naturel en fait. Et donc, ouais, non.
Et ça lui va bien.
Excellent coach qui mérite totalement d'être élu le meilleur coach de l'année pour moi.
Merci Lucas. Par moment, j'ai envie de nous faire écouter quand même nos podcasts du début de saison en Ligue des
Champions. On l'a critiqué, moi le premier. Je me rappelle après des contre-performances Atlético, là, je crois que j'étais revenu très très fâché après l'Atlético. Ah, j'en pouvais plus, mais effectivement, il m'a fait taire, comme Fabien Ruiz d'ailleurs. C'est mes deux gros retournements de veste de l'année. Mais avec grand plaisir, vu ce qu'il nous a montré, franchement.
C'est le football, hein,
c'est le football, c'est fait comme ça. Mais non, non, il a prouvé à tout le monde et à moi le premier qu'il méritait.
Merci Lucas. Ça bouge du côté de Paris Saint-Germain.
Il y a une grosse occasion de Paris, là, une frappe de Vitinha encore, mais ça reste bloqué à 1-0. Et là, il va y avoir un coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille.
Ok, coup franc, c'est pas penalty.
Hein. Non, coup franc. Okay. Zabarni, il est monté sur Aubameyang, mais c'est en dehors de la surface.
Ok. Malheureusement. Merci, Lucas, pour cette précision. Manchester City, qui ont lancé leur campagne face à Naples, le retour de Kevin De Bruyne à l'Emirates Stadium, qui ne s'est pas déroulé pour le mieux. Hein. On a pu voir de gros tifos sortis en l'hommage de Kevin De Bruyne, qui a même eu l'occasion de faire le tour en fin de match du stade, accompagné de ses anciens coéquipiers de Manchester City. Mais malheureusement, Kevin De Bruyne, qui a dû céder sa place au bout de 25 minutes à cause d'une erreur de son défenseur Di Lorenzo, qui a pris un carton rouge assez rapidement dans le match, et ce qui a un peu plombé aussi cette équipe du Napoli. Du coup, c'était un peu biaisé depuis le début, on peut dire ça comme ça. Erling Haaland qui s'est offert l'ouverture du score, et deuxième but, c'est Phil Foden, il me semble. Depuis le début de saison, c'est très fameux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jason, de ce match-là, Manchester City-Napoli?
Je suis déçu pour Kevin De Bruyne, parce qu'il n'a pas pu faire son retour comme tout le monde l'idéalisait. Et ça, surtout que la prestation de Naples, du coup, avec le carton rouge, a rendu le match un peu trop déséquilibré. On s'attendait quand même à une domination de City, mais le carton rouge arrive beaucoup trop tôt et ça fausse complètement le match. Donc Naples en Italie, on les voit dominer le championnat en ce moment. Donc on s'est dit, bon, ça va quand même donner une bonne adversité face à City. Et là, en fait, le carton rouge a tout plombé et ça a gâché un peu le retour de De Bruyne. Moi, je m'étais dit, bon, il va revenir, il va faire un gros match parce que là, en plus, il est en forme, que ce soit avec la Belgique et avec Naples. Et du coup, quand on voit ça, ça n'a pas été le meilleur des retours.
Merci, Jason. Abou, est-ce que tu comprends, toi, la sortie de Kevin De Bruyne à la 25e minute, que le coach porte son choix sur Kevin De Bruyne pour le faire sortir offensivement?
Bah après, c'est Conte, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas étonnant de Conte. C'est du Conte. C'est le choix pour lui, en tout cas, dans sa tête, c'est le plus logique. Est-ce que c'est un choix qui m'interpelle plus que ça? Non. Après, je pense que le choix, il nous interpelle surtout parce qu'il y a le côté émotion. On se dit, le joueur, il aurait dû rester plus longtemps. Mais dans ce que veut faire Conte, c'est du Conte. Non, moi, ça m'a pas plus surpris que ça, le fait qu'il décide de sortir
Je pense qu'il voulait des joueurs qui cavalent pour.
Exactement.
Kevin De Bruyne, c'est dur de le faire presser.
Mais c'est dommage parce que on l'avait dit la semaine dernière, c'était un des matchs qu'on attendait beaucoup.
Ouais, ouais, ouais.
Et on voit avec Dortmund de Juventus, je ne m'étais pas trompé. Celui-là, il a fait des étincelles, celui-là. Mais je pense que sans l'expulsion, on aurait pu avoir un aussi beau Naples-City. Mais bon, ce sera pour plus tard.
Et Haaland qui fait un très bon. Gros début de saison.
C'est son pire début de saison à City. Il faut le dire en termes de statistiques.
Parce que là, il est bon dans le jeu, il est bon dans tout.
C'est des buts décisifs, il est régulier.
Parce que là, il met un but par match. D'habitude, il en mettait 2-3.
2-3 en début de saison.
Non, non, franchement, le début de saison, même les 5 buts qu'il a mis contre la Moldavie, là, avec.
Ouais.
Il s'est excusé à chaque but, il s'est excusé quand même auprès du gardien moldave. Il a dit, la différence de but compte, c'est pour ça que je vais te mettre beaucoup de buts aujourd'hui. Non, mais le gardien l'a dit en fin de match, mais il s'est excusé.
Et il est déjà à 50 buts en 49 matchs de Ligue des Champions.
Exactement.
Il est sur des buts en 49 sections
aussi, je crois.
C'est
un extraterrestre, le mec.
C'est tout simplement.
Et on banalise des fois un peu trop ce qu'il fait, je trouve. Nous, même moi, compris. Hein, mais
on le réduit à beaucoup.
C'est ça.
On le réduit à
beaucoup. C'est depuis qu'on a connu Cristiano Messi, ça, qu'on banalise les mecs qui marquent beaucoup de buts qui viennent derrière.
Exactement.
Ouais, même dans le jeu, le match hier en PL, même dans le jeu, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est pas juste un stateur.
Après, il avait déjà fait des bons matchs. Moi, je me rappelle Arsenal il y a 2 ans aussi, où vraiment, dos au but, que ce soit Saliba ou Gabriel, ils avaient galéré les deux à le prendre. Dès qu'il arrivait, ils se lançaient. Enfin, c'était... En tout cas, il reprend un peu comme Mbappé, qui était bon dans les stats, mais qui était moins bon dans le jeu. Là, je pense qu'Haaland, il retrouve vraiment son football. Et peut-être qu'il a digéré son nouveau statut aussi totalement. Et là, il est prêt à tout casser. Et franchement, ça fait plaisir.
Merci, Lucas. Bambori, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Newcastle-Barcelone, Barça qui se sont imposés 2-1 avec Rashford, auteur d'un doublé, qui a été élu meilleur joueur de la semaine?
C'était un match quand même difficile au début pour le Barça. Newcastle qui les pressait haut. Le Barça, ils n'arrivaient pas à poser leur jeu. Newcastle,
Gordon qui loupe.
La balle, elle passe sous le pied. Je pense qu'ils auront pu mettre quand même 1 ou 2 buts, mais ils n'ont pas réussi à finir. Et en deuxième mi-temps, le Barça, ils ont commencé à poser leur jeu. Rashford, il met un très beau deuxième but quand même.
Les deux sont beaux. Je trouve la tête, elle est sous-estimée. Elle est belle, la tête.
Quand même, il est un peu de loin quand même.
Il est plus loin, ce que j'allais dire. Il est plus loin que le point de penalty et tout. Le centre de Koundé est parfait, mais franchement, c'est un vrai coup de tête. Et le deuxième.
Il sort un peu.
C'est pour ça qu'il a été recruté,
je crois. Surpris quand même. Et lui, qui avait fait un début de saison un peu difficile quand même. Il n'était pas trop dans les stats, mais là, il a bien lancé son début de saison. Là.
Merci, Bambori. On a pu voir aussi. Copenhague-Bayer-Leverkusen, 2-2, Bambori.
Oh, ça me surprend. Ça me surprend pas trop, parce que Copenhague, il y a quelques années, le Bayern, il joue là-bas, et c'est un match très difficile chez eux. Et Leverkusen, en ce début de saison-là, c'est très difficile. Grimaldo, il te sort des coups francs de nulle part, mais c'est très difficile quand même, Leverkusen, en ce début de saison. Ils ont perdu trop de joueurs majeurs.
Même le
Jonathan
coach.
Tah, le coach, Florian Wirtz, Frimpong, c'est... Je ne m'attendais pas à plus d'eux.
Même des Amin Adli, etc. Même des joueurs de complément qui poussaient les titulaires, ils sont partis aussi. Donc en fait, il y a tout à recréer. Et je pense que ça va être un peu difficile pour Leverkusen cette saison.
Surtout qu'ils ont viré Ten Hag au bout de 2 matchs.
2 matchs, ouais.
Donc ça a compliqué.
Mais c'était trop,
plus.
D'après Chekenza déjà. Un match, ça aurait suffi.
Même avant le match. Chekenza a dit un match.
Un match, ça suffisait.
Ils jouent contre les U20 de Flamengo, ils prennent 5-0 ou 7-1.
C'était compliqué, c'est vrai. On va enchaîner. Il y a eu aussi.
On parle pas de Monaco. No,
on y arrive. Abou, j'allais t'interroger. On y arrive. Nos chers amis monégasques. Akliouche qui loupe un penalty en début de match. Et on va parler aussi de Ansu Fati qui commence à revenir. Ansu Fati qui retrouve certaines couleurs. Et on a pu voir tout simplement Monaco se prendre une fessée énorme à domicile face au club Bourges. Et c'est ce que je disais, avec Lucas, je pense, je te disais qu'aller chercher un résultat là-bas, ça allait être difficile aussi. Qu'un match nul, c'était un bon résultat, parce que club Bourges à domicile, c'est très fort. Et on a pu voir le jeu déployé par le FC Bruges, tout simplement magnifique. FC Bruges qui n'ont pas arrêté les vagues et qui ont tout simplement mis 4-1 à cette équipe de Monaco. Ils les ont surclassés tout simplement. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Félicitations à Bruges pour cette belle victoire, bravo, ils n'ont pas démérité, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de la nullité de Monaco? Non, mais qu'est-ce qu'on peut parler de, à quel point? En plus, c'est un club qui laisse tout le monde indifférent. Monaco perd, gagne, ça ne change rien. Le club, il brûle, ça ne va rien changer à nos vies. Il y a un vrai problème là-bas. À 18h, j'ai cru comprendre qu'il était sur la sellette. J'espère qu'il va sauter. Il n'y a rien, on ne voit rien.
Apparemment, le vestiaire l'aurait lâché. En tout cas, c'est ce que les insiders disent.
Ah, mais ça se voit. Il n'y a rien, il ne se passe rien dans le jeu, il n'y a rien du tout. C'est affligeant. Quand j'entendais des gens nous expliquer que Monaco avait fait un meilleur recrutement que l'Olympique de Marseille sur ce mercato, mais n'importe quoi.
Personne.
Les joueurs, ils perdent.
C'est les départs aussi. Pas que les arrivées.
Tu
les mercato.
Partir Benseguir.
Benseguir à 2 jours du mercato et single dernier jour sans les remplacer. T'as affaibli ton effectif en 48 heures sans solution de rechange. N'importe quoi.
Tu prends des joueurs comme Pogba que tu sais que tu pourras pas faire jouer avant un bout de temps. Bon, là, il y a Ansu Fati qui revient bien. Ça, c'est un pari plutôt gagnant. Mais Monaco, c'est vraiment moi le club. J'ai l'impression que tout est mal fait là-bas, mais comme personne ne regarde, donc ils continuent à mal faire et c'est pas un souci.
J'allais aller dans ton sens parce que pour moi, ça commence même pas à 18h. C'est déjà le board, l'équipe dirigeante qui a pas fait bien les choses. À 18h, il les a amenés en Ligue des Champions, donc on va pas dire trop mettre en cause tout son travail, mais effectivement, là, depuis le début de saison, je trouve que c'est même dans le contenu, c'est pas bon. Là, ça fait plusieurs victoires en Ligue 1, même ça a l'arraché, soit dernière minute, soit il y a un coup du sort en Ligue des Champions qui est un peu le. Va être vraiment le juge pour voir le niveau réel d'une équipe. Club Bruges, c'est solide et tout. Mais Monaco, pour moi, vu la prétention que le club a, ils doivent faire mieux que ça. Et on a vu avec la différence de niveau, le Bruges, ils savent jouer ensemble. En fait, il y a un vrai collectif, ça les a étouffés du début à la fin. Et en fait, quand tu regardes le contenu du match, la défaite de Monaco, elle n'est pas du tout étonnante. Hein. C'est assez logique, au final, ce qui s'est passé.
Après, moi, ça ne me choque même pas.
ce qu'on oublie, c'est que les clubs belges, sauf le PSG, battent à chaque fois les clubs français. C'est que ce soit à l'époque la Gantoise face à Lyon, Nice qui a perdu en Europa League contre un club belge. Tout le monde sous-estime les clubs belges. Les Français vont piocher des joueurs dans les clubs belges. Mais les clubs belges battent tout le temps les clubs français. Il n'y a que le PSG qui a réussi à battre Anderlecht. Et je crois qu'ils avaient battu aussi Bruges. Je ne sais plus s'ils avaient joué contre Bruges. Ouais. Mais sinon, tous les autres clubs qui affrontent les clubs belges, et ben, les Français perdent alors qu'on est censé être au-dessus.
Mais la Belgique n'arrive toujours pas à battre la France.
Voilà. Bah,
gros bisous à nos amis belges, bien sûr. Hein.
Il m'a mené, il a dit maintenant que Mtiti a pris sa retraite, peut-être que c'est possible.
Possible, mais en tout cas lui il y sera pas, Thomas Meunier, ça c'est une certitude aussi. On va poursuivre, hein. Le Bayern qui sont imposés 3 buts à 1 face à Chelsea. Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé toi de la performance du Bayern face à Chelsea?
Bah, ils ont bien été aidés par le gardien de Chelsea qui est quand même pas serein, Robert Sanchez. Mais pour moi c'est logique, pour moi une fois que la saison redémarre, que les effectifs reprennent, j'ai l'impression que Bayern ils vont être encore plus dangereux que l'an dernier. Donc déjà, une équipe qui a fait quart de finaliste en Ligue des Champions. J'ai l'impression que l'an prochain, cette année, ils seront encore plus forts. Donc moi, je ne suis pas étonné que le Bayern commence en battant Chelsea. À 2-1, c'était un petit peu difficile. Chelsea les a bougés. Donc voilà, ça prouve que Chelsea, ils ont une belle équipe aussi. Mais qu'au final, le Bayern résiste, on va dire, à Chelsea. Et Harry Kane a encore l'étal sur ce match. Pour moi, c'est la logique qui a été respectée. Et vraiment, ouais, faudra compter sur le Bayern pour moi cette saison.
Jason, du même avis ?
Je suis tout à fait d'accord. Le Bayern a fait le boulot. Ils ont eu un passage un peu difficile à la réduction du score de Chelsea. Mais après, là, le Bayern commence à redevenir le Bayern. Et cette saison, je crois qu'ils ont fait quasiment un sans faute. Ils n'ont pas encore été accrochés. Donc, ils sont sur la continuité avec un Olise qui est très, très bon. Et un Kane qui fait son boulot. Hein.
Simplement. Merci Jason. Bambori, c'est pas toi qui vas nous dire le contraire ?
Non. Après, ils auront pu revenir dans le match au début de la deuxième mi-temps. Dans les 10-15 minutes, ils ont quand même poussé le Bayern. Mais après, Malo Gusto, il fait l'erreur. Il la redonne à Kane et Kane met le 3-1. Et là, après, ça tue un peu le match, quoi. Et après, le Bayern, il continue à pousser. Mais Chelsea n'avait plus vraiment d'espoir.
Merci Bambori. Abou, quelque chose à dire sur ce match ?
Non, le Bayern, c'est très fort. C'est au-dessus du lot. Chelsea, j'ai l'impression que ça avait bien démarré la saison. Après, il y a quelques coups de mou aussi. Là, j'ai l'impression, même en PL, c'est pas linéaire comme équipe. Mais le Bayern, c'est impressionnant, en fait. Et tu te dis qu'il n'y a pas encore le
Salah.
Et Davis aussi.
Et tu te dis que quand tout ça va revenir, ça va être quelque chose. Et je suis content qu'on ait laissé du temps en compagnie. Qu'on ait pris un coach finalement qui sortait de
quelqu'un. Burnley, au début, tu n'y croyais pas.
Je de t'ai Burnley, dit ouais, faire. Non, mais je me disais, il sort de Burnley, on le prend juste pour son nom et tout. Et finalement, et c'est vrai que pour en avoir parlé en off avec Bambori plusieurs fois, fallait pas chanter avec lui. Je suis content de. En tout cas, l'équipe qu'il a là, qu'il a formée, elle est juste incroyable. Et faut applaudir les coachs quand ils arrivent à faire de telles choses.
Et Olise va progresser cette saison.
Trop fort.
Il va être trop fort.
Il va être top 10 peut-être au Ballon d'Or. Hein, qui sait.
J'espère.
En tout cas, merci. Yachine. Trophée Yachine.
Donnarumma, forcément.
Il n'y a pas de débat.
Pas de débat.
Il n'y a pas de débat.
Rien à dire.
Ok, du coup, on poursuit. Peut-être l'année prochaine, ça sera roulis. On ne sait pas trop. on poursuit en tout cas.
Ce serait pas étonnant.
Liverpool, Atlético de Madrid. Hein. Un beau match, Liverpool qui s'en sort encore en fin de match. Hein. Liverpool au bout de 10 minutes qui gagnait 2-0 et tout simplement qui avait maîtrisé le match. On pensait qu'ils maîtrisaient leur sujet aussi et qu'ils se sont fait peur. 2-1, 2-2 et finalement ils reviennent à la dernière seconde. C'est du Liverpool tout simplement à Anfield. Ça n'est jamais fini même au bout du bout. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Jason ?
À Liverpool en ce moment, c'est beaucoup, ils sont beaucoup dans le money time, même en championnat. Ils luttent un peu plus dans le jeu parce que les automatismes ne sont pas encore bien entamés dans l'équipe parce qu'on sent même un Wirtz très, très délicat depuis le début de saison. Il n'arrive pas trop à se faire sa place. Ce n'est pas le même football qu'en Bundesliga.
Mais malgré tout, Liverpool arrive quand même à enchaîner les victoires. Mais petit à petit, on voit un Ekitike qui commence à aussi s'installer. Isaac qui vient d'arriver, donc il faut qu'il prenne ses marques. Donc il faut laisser encore un peu de temps à Liverpool, le temps que tout, en fait, tout se concorde et qu'on ait un grand Liverpool.
Merci Jason. Abou, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la prestation de Liverpool avec le but de Virgil à la dernière seconde?
Bah, comme il le disait, Jason, c'est pas un grand début de saison de la part des Reds.
C'est quand même un 5 sur 5 en,
ouais,
en
mais
championnat.
Oui, en stats. Oui, si, si on regarde en termes de stats, de points pris, ils ont pris les points qu'il fallait prendre là où ils les ont pris. Mais je pense que quand l'adversité va monter d'un cran, ce sera compliqué. En tout cas, si eux ne montent pas d'un cran, ils restent sur ça. Après, c'est un début de saison. Le plus important, là, c'est de prendre les points. C'est important de les prendre tout de suite, surtout dans une compétition compétitive comme la PL. En Ligue des Champions, je pense qu'il n'y a pas trop de mal. Ils n'auront pas trop de mal à être dans soit les 8, soit les 16. Mais non, c'est un début de saison que moi, en tout cas, pour ma part, je trouve compliqué. Et Wirtz, j'entends beaucoup de gens taper sur Wirtz. Il est jeune, il faut lui laisser le temps. Il découvre un nouveau championnat qui est beaucoup plus rude, physique aussi. Et ça va venir, petit à petit, ça va rentrer. Il y a Isaac aussi qui va le temps de se remettre de sa bouderie là, pendant 2 mois où il ne s'entraînait pas. Lui aussi, le temps qu'il se remette de tout ça, ça va venir. Et Kutike, qui est plutôt bon, serein, confiant. Et moi, je pense que ça va le faire pour les Reds sur le long terme.
Merci. Tant qu'ils ont se bossé à ce niveau-là, il ne peut rien leur arriver. Trop fort, Dominique.
Gravenberch aussi, il fait un gros début.
C'est les deux là, incroyable.
Merci Lucas. Bambori se devait de souligner Gravenberch.
Il a raison, j'adore aussi.
Aussi
bah, il ne s'est pas imposé à Munich, mais j'adore Gravenberch aussi.
L'Inter qui sont imposés 2-0 face à l'Ajax, c'est une formalité. Bambori, on va pas doubler de Marcus Thuram. Il fait un très bon début de saison, hein, Marcus.
En ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne met que des coups de casque.
Et je ne comprends pas trop pourquoi Lautaro Martinez ne joue pas trop là, sur les derniers matchs.
Parce qu'il a un peu de mal en début de saison, supporter interiste,
même
tu peux
pas,
nous en dire
même
plus
pas d'infos, hein. Franchement, même pas d'infos sur ce point-là.
Contre l'Ajax, il a pas joué du tout.
Contre l'Ajax, il n'a pas joué et en championnat, il me semble qu'il a mis Esposito aussi hier.
Ouais.
Et il l'a fait rentrer vers la 60e.
Donc après, est-ce qu'il tire pas un peu encore sa blessure de l'an dernier, je sais pas. Il n'y a pas trop d'explications à ce niveau-là.
Merci en tout cas, Jason. Juventus, Dortmund, 4-4. C'était un match...
Parlons-en de ce match-là, ouais. C'était incroyable. Bah, Dortmund qui a commencé très très fort, et la Juve qui avait vraiment du mal. Et en fait, il a fallu le talent de Kenan Yildiz. Yildiz, je pense, ce sera le game changer de la Juve dans les prochaines années, parce qu'ils ont pas mal de bons jeunes joueurs. Mais ils disent, ils rayonnent encore plus que les autres. Et en deuxième mi-temps, on a vu aussi à 4-2 la rentrée de Vlahovic qui leur met le doublé qui leur permet d'égaliser. Et en fait, si Vlahovic, avec de la concurrence, il retrouve son niveau, le niveau qu'il avait à son arrivée, ça peut être que bénef pour la Juve. Et avec Yildiz à côté, ils ont Cancelo, franchement, ils ont Kefren Thuram qui prend de plus en plus d'importance au milieu de terrain. La Juve, ils ont vraiment de quoi... En tout cas... Après un gros passage difficile, en plus ça a l'air de bien marcher avec Igor Tudor, la Juve, j'ai l'impression qu'ils ont toutes les armes à l'heure actuelle pour relancer un cycle assez vertueux. Et Dortmund à côté, j'espère, pour avoir vu son but encore en Bundesliga ce week-end, qu'on est en train d'assister à l'éclosion définitive de Karim Adeyemi. Parce qu'on sait tous les qualités extraordinaires qu'il a. Il y a des moments où on ne sait pas, il ne veut pas marquer. Il tire, il a des problèmes de finition, des petites blessures à droite à gauche. Donc c'est assez compliqué pour lui depuis un an et demi, malgré des gros flashs. Et là, j'ai l'impression qu'il trouve de la régularité. Donc si Adeyemi, il est à ce niveau-là avec Guirassy en plus, Dortmund peut aussi espérer être moins décevant que l'année dernière.
Merci Jason. Quelqu'un a quelque chose à dire sur le match de Juventus-Dortmund?
Moi, j'ai quelque chose à dire sur Igor Tudor. Vraiment, Igor, tu me manques à l'Olympique. Enfin, tu me manques à l'Olympique de Marseille. Non, j'aime bien De Zerbi. J'aime beaucoup Roberto. Mais vraiment, Tudor, c'est un coach incroyable. On n'a jamais mieux joué que sous lui ces dernières années. Je pense que Jason, il est d'accord sur ça. Que ce soit avec Villas-Boas, que ce soit avec...
C'était pas très beau, Villas-Boas. C'était efficace, mais c'était pas très beau.
Ouais. Sampaoli, pareil, on nous a vendu un truc.
C'était bien. Il y a eu des belles choses.
Mais c'était beaucoup moins bien qu'Igor Tudor. Ouais. C'est vraiment... Et non, moi, je suis content pour lui.
Un peu de folie avec Tudor, quoi.
Je sais que la Juve, ils avaient hésité à le garder sur la fin de saison. Il y avait une réflexion sur le fait qu'il joue la Coupe du Monde des clubs. Et après, on voit...
Il voulait rapatrier Conte, surtout. Et en fait, comme il a prolongé à Naples...
Bah, ils ont bien fait de garder Igor Tudor. Je trouve qu'il a la trempe des grands coachs et j'espère que ça va le faire pour lui. Mais quand tu vois le match de la Juve contre Dortmund en Ligue des Champions, bah, en fait, c'est du Tudor. C'est du Tudor tout craché. On meurt avec nos idées, coûte que coûte. Et non, je suis content de le voir à ce niveau-là et j'espère que ça va le faire pour son... Pour le coach croate.
Ça doit faire juste bizarre aux supporters tirinois parce que d'habitude l'Italie s'est vantée pour avoir des catenaccio et Tudor c'est tout l'inverse avec la Juventus. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des matchs de la Juve qui se débrident comme le Juve Inter 4-3, t'enchaînes avec Juve Dortmund 4-4. La Juve à l'époque c'était pas ce style.
Ils ont eu Allegri très longtemps qui est quand même un coach défensif réputé. Mota ça a pas marché et je pense que ouais, comme tu dis Tudor c'est un peu une libération pour ça change.
Alors que pendant le même temps Roberto Zerbi a été sanctionné d'un carton rouge dans le match Marseille.
Il a pété un plomb pour une faute qui semblait tout simplement évidente.
C'était prévisible depuis le début de match. Il a un peu en hauteur de.
Bon, après, là,
mais il reste 2 minutes et Marseille mène toujours. Donc, victoire probable de l'Olympique de Marseille. Ah,
c'est pas fini. C'est pas fini.
Bah, Aubameyang a failli mettre le deuxième, mais il a tiré sur Lucas Chevalier.
Quand ce sera fini, vous inquiétez pas, vous allez le savoir.
On poursuit en tout cas dans la soirée. On poursuit dans cette soirée. Ligue des Champions, hein, Arsenal, Atlético Bilbao. Arsenal qui ont eu un peu de mal et finalement qui se sont imposés 2-0. Score logique pour vous
Oui, bah après Arsenal, c'était un match au début assez équilibré. Il a fallu que quelques changements, l'entrée de Martinelli fasse basculer la rencontre. Mais après, c'est jamais facile de jouer à San Mamés. Donc Arsenal, ils sont allés, ils ont pris leurs points. Donc l'essentiel était d'assurer la victoire. Après, ça n'a pas été un grand Arsenal. Mais ils ont assuré les 3 points et je pense que c'est ce qu'il leur fallait de plus important.
Merci Jason. Tous concentrés sur cette fin de match.
Ah, c'est vrai qu'on est plus juste dans l'émission.
Je peux parler d'Arsenal aussi.
Paris Saint-Germain, vas-y.
Je trouvais que c'était assez décevant parce que c'était un match assez fermé en première mi-temps. Il a fallu les entrées de Martinelli et de Trossard pour un peu changer la donne. Mais je trouve qu'au vu de leur recrutement, au vu de leur recrutement massif, c'est assez inquiétant de voir le jeu développé par Arsenal. Je disais tout à l'heure que Arteta ressemble de plus en plus à Mourinho. Ce qu'on a vu à Bilbao, on l'a aussi vu avec City ce week-end, avec un milieu avec du coup Declan Rice, Mikel Merino et Zubimendi. Et en fait, c'est 3 joueurs qui sont plus quand même à vocation défensive. Donc, victoire de l'Olympique de Marseille, c'est terminé
1-0.
C'est terminé, effectivement.
Marseille qui s'impose pour la première fois au Vélodrome depuis
14 ans en Ligue 1.
Oh là là là.
Et donc, pour finir, juste, j'ai l'impression qu'en fait, Arsenal, limite, ils ont, alors que la semaine dernière, je disais que c'était mes favoris pour le titre, j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre pied collectivement, entre guillemets, même si c'est le début de saison et tout. Je vois pas très bien le projet de jeu. Et pour moi, c'est un peu une victoire en trompe-l'œil, avec notamment le but de Martinelli, qui est un petit peu chanceux, même s'il fait un très beau contrôle pour se la ramener. Je trouve que Arsenal déploie pas un beau jeu et quand tu vois les sommes folles qu'ils ont investies sur le mercato, tu vois que leur meilleur recrue jusqu'à maintenant c'est Madueke qui devrait aller sur le banc quand Saka va revenir. Donc en fait, ouais, je suis assez circonspect.
Après les joueurs recrutés, on les voit souvent en PL, mais on prend pas de recul parce que par exemple Madueke et Eze, c'est même pas encore des joueurs de Champions League. Donc eux-mêmes découvrent, on va dire, Madueke il avait joué au PSV. La Champions League, mais dans un gros club, il découvre ce qu'est la Champions League, parce qu'avec Chelsea, il avait connu que la Conference League. Et Eze, il n'a même pas connu de Coupe d'Europe.
D'accord, mais Eze, il est international anglais depuis un moment.
Mais les Anglais, ils sélectionnent même
joueurs. Ça fait 3 grosses saisons qu'il est en PL. Enfin, tu vois, c'est quand même le meilleur championnat au monde, la PL.
Ah oui, mais il n'a pas encore.
Et lui, comme
il n'est
pas là,
c'est au niveau européen.
Non, bien sûr, mais moi, Eze, qui est un joueur que j'adore, je trouve par exemple qu'il n'est pas encore.
Et je regarde, par exemple, moi, ce qui est biaisé avec l'Angleterre, c'est que l'Angleterre, il sélectionne même des joueurs de Nottingham Forest.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Ah, il est international anglais ». Parce que même ce joueur-là, il a jamais le joueur de Nottingham, il n'a jamais connu la Coupe d'Europe. Il a appelé en équipe nationale. Donc, on attend de voir Eze, le temps qu'il monte, qu'il prenne l'ascendance au niveau d'Arsenal pour voir ce qu'il va donner en Coupe d'Europe. Mais pour l'instant, ça reste qu'un joueur de première ligue.
Ouais, mais en tout cas, avec les sommes investies, parce qu'ils le savaient quand ils ont mis 80 millions sur lui, c'est quand même que
après,
tu te dis.
Après, c'est les prix des Anglais.
Ah, bah, dans ce cas, tu vas prendre Rodrigo à 110 et tu te tapes le meilleur ailier, un des meilleurs ailiers au monde. Mais ça fait des choix qui sont un peu discutables. J'ai l'impression que Arsenal a beaucoup dépensé. Ils ont perdu que Thomas Partey. Et pourtant, ouais, j'ai pas l'impression que l'équipe soit sensiblement meilleure que l'année dernière. Et le match contre Bilbao, ça m'a fait penser à ça. J'ai l'impression qu'ils auront le même plafond de verre que l'an dernier. Ils peuvent éliminer un gros, mais à partir des quarts demi, ça va pas le faire.
Plafond de verre.
Merci Lucas et Jason. Marseille qui sont imposés 1-0 face à au Paris Saint-Germain. Hein. Marseille qui ont exulté hein, de Serbie en folie sur le terrain. Les supporters voilà, qui ont ressorti la banderole. Abou qui tient plus en place depuis cette victoire. Marseille qui sont imposés depuis 14 ans. Hein, ça n'était pas arrivé en Ligue 1. Du coup, ce soir, ça va être
à domicile.
À domicile.
Oui, à domicile. On vous a frappé à l'extérieur.
En Coupe de France.
Non, en championnat, sur un but de Thauvin.
Ah oui, c'est vrai.
C'était Villas-Boas à l'époque, si je dis pas de bêtises.
Du coup, ça faisait longtemps. En tout cas,
tellement
là, ça va être.
Je t'en
souviens, ouais. en tout cas, ça va être la fête du côté du Vieux-Port ce soir, toute la nuit. Les incidences, du coup, de ce match, ce que ça fait Monaco, premier. Paris Saint-Germain, deuxième, à égalité avec Lyon. Hein, c'est qu'une différence de but entre les trois de devant. Oui, entre les trois de devant. Lyon qui ont plus 4, PSG plus 6 et Monaco plus 7. Strasbourg qui sont quatrième aussi avec le même nombre de points et juste un petit plus 3. Lille cinquième et Marseille qui monte à la sixième place avec 9 points à égalité avec Lens. Mais comme Marseille ont plus 6, tout comme le Paris Saint-Germain.
Bah c'est bien. Un championnat qui est serré, ça rééquilibre.
Ouais, c'est tout ce qu'on demandait. Avec le PSG qui était la seule équipe invaincue du coup depuis le début de cette saison.
Tout le monde a perdu et il n'y aura pas le suspense comme l'année dernière. Est-ce qu'ils vont perdre un match? Ils ont perdu un match.
On a réglé ça dès le début.
C'est ça. Eux-mêmes, ils vont pouvoir être plus sereins. On va attendre maintenant que la machine soit lancée. Mais est-ce que c'est vraiment... On a regardé le match tous avec d'un œil parce qu'on faisait l'émission en même temps. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça peut être... Est-ce que c'est révélateur de Marseille qui passe un step par rapport à l'an dernier ou tu penses que ça va...
Je pense que l'OM a passé un step, mais est-ce que ce match est révélateur? Je pense pas.
D'accord.
Parce que déjà, tu as pas mal d'absences du côté parisien. Il faut quand même pas l'oublier.
Mais ça fait
des
années que même avec les absents, Paris.
C'est vrai que vous nous fracassez. Hein. T'es gentil, toi. Tu rappelles les bons souvenirs.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, non, mais je pense que l'OM, cette saison, a passé un step. Et on l'a vu, même le match contre le Real, en vrai, même si tu perds le match, même si tu dois mieux faire dans certaines choses, tu sens que cette équipe, et De Zerbi le disait en conférence de presse, c'est déjà un effectif qui est beaucoup plus fort que l'année dernière. Et non, je pense qu'on a passé un step. Est-ce que de là à aller chercher le PSG cette saison en Ligue 1, ça j'y crois un peu.
Un deuxième plus serein qui va vraiment et qui peut-être pourra plus se concentrer sur la Coupe d'Europe. Du coup, si c'est plus confortable en championnat, peut-être.
Et encore, on a vu à quel point l'OM ça peut vite brûler pour c'est un vrai, oui ou pour vrai. Un non. C'est pas une défaite à Rennes. C'est parti se frapper dans le vestiaire, tu sais pas trop pourquoi. Mais je pense que cette équipe, en tout cas, elle est meilleure cette saison. Je pense que le coach, il est meilleur dans sa communication aussi cette saison. Il parle mieux, il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus serein. Bon, on l'a pas vu ce soir sur ce match, mais il explique beaucoup mieux ses décisions, il parle beaucoup mieux avec la presse. Et non, c'est de bonne augure pour la suite, en tout cas pour les Marseillais. Il faut qu'ils savourent cette victoire, qu'il y ait des absents ou pas côté parisien. J'espère que les Marseillaises et Marseillais savoureront cette victoire.
Je pense qu'ils la savoureront. Ils ont déjà commencé à la savourer. Ils ont déjà commencé à la savourer. On les entend de Paris. En tout cas, pour le classement Trophée Copa, hein, le top 10, Lewis Kelly 9e, égalité avec Boadi, Mora 8e, Hussein 6e et Koubarsi 7e. Première. Yamal, vainqueur tout simplement. Désiré Doué, deuxième. Roi Oneves, troisième. Estevao, quatrième. Et Yildiz, cinquième. Voilà ce qu'il en est. Pour l'autre.
Boadi, pas du tout troisième. Deuxième.
Oui, non, il est.
C'est l'équipe qui m'a trompé.
Il est neuvième. Et du coup, pour le trophée Yachine, hein, Donnarumma qui l'a gagné. Tout simplement, dixième, Matzel. Lucas Chevalier, 9e. Emilio Martinez, 8e. Oblak, 7e. Raya, 6e. 5e, Yacine Bounou. Thibaut Courtois, 4e. Yann Sommer, 3e. Alisson Becker, 2e. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose qui est Bounou qui...
Ouais, Bounou, je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Alisson, même s'il est redevenu très solide, je trouve que pour moi, de toute façon, à part Donnarumma l'an dernier, Courtois, c'est le meilleur gardien du monde par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son jeu au pied ou même les arrêts qu'il fait. Donc pour moi, Courtois, c'était même s'ils ne vont pas très loin en Ligue des Champions, c'était un numéro 2 assez évident. Donc je ne comprends pas spécialement. Il y a plusieurs choses que je comprends dans ce classement. Mais comme on dit des fois, Ballon d'Or, on n'essaye pas de comprendre. C'est comme ça.
Trophée Gerd Müller qui est attribué à Gyökeres.
Logiquement. Le trophée Gerd Müller, c'est le meilleur buteur
Ah, donc c'est juste une récompense pour ce nombre de buts, quoi. C'est
au courant avant même d'arriver à la cérémonie.
C'est comme un soulier d'or, quoi. Okay.
En quelque sorte.
Ils l'ont créé cette année ou il était déjà l'année dernière?
Non, c'est celui qu'ils ont donné à Lewandowski.
Quand tu sais, moi j'arrive plus à tousser. J'avoue, j'arrive plus.
Ils l'ont créé pour les... Ils l'ont créé pour les mines.
Deux femmes rondes, là, qu'ils ont donné à Lewandowski.
Oui, c'était le consolation. T'as raison, c'était notre consolation, c'est ça.
Le trophée Gerd Müller, c'est le trophée du meilleur attaquant, mais c'est. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, meilleur attaquant, mais c'est plus en termes de buts. Voilà, en termes de buts, celui qui a vraiment flanqué. Voilà, en tout cas, c'était ça en tout cas pour nous. Il n'y aura pas de quiz aujourd'hui. On reviendra la saison prochaine. Non, du tout, ne vous inquiétez pas. On revient la semaine prochaine, même heure, pour évidemment débattre aussi du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui a été décalé, hein, les résultats du Ballon d'Or qui auront lieu d'ici une trentaine de minutes. Voilà, en tout cas, nous, on reviendra sur le résultat final, qui ne devrait pas être une grande surprise, hein, la semaine prochaine. On espère, en tout cas.
Moi, j'attends de voir. Moi, je trouve qu'on s'avance beaucoup vite sur ce qui ne devrait pas être une surprise. J'attends de voir. Ils nous ont déjà pas mal surpris, les journalistes qui votent pour ce trophée-là.
Un petit mot de la fin, Lucas. Est-ce que vous avez un petit mot
Un petit mot de fair play. Bravo Marseille pour la victoire, mais je pense que ça ne changera pas l'issue de la saison. Et j'attends du coup, avec d'autant plus d'impatience, le retour au Parc des Princes.
Moi, je dirais félicitations à l'Olympique de Marseille, en espérant que ça libère, ce fantôme qui est resté depuis des années et que Marseille va pouvoir lâcher les chevaux un petit peu.
À bout.
Allez l'OM. Tout simplement.
Simplement.
Allez l'OM. C'est une victoire qui fait du bien.
Bambori, toi?
Émission spéciale Ballon d'Or, donc je vous dirai Ousmane, Ballon d'Or.
On va se terminer sur ça. Merci à Jason, merci à Clarisse.
Et
on va, merci à Lucas, merci à Jason, merci à Abou, merci à Bambori. Et on va finir sur merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Et Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or. Et Ousmane, Ballon d'Or.